Oyez, oyez, oyez! L'épisode numéro 97 de l'Horreur Gamer Show. Bienvenue tout le monde. Ici Sébastien Bouchard au micro. Et c'est la deuxième semaine d'octobre, donc le deuxième épisode des 31 jours d'horreur. Yeah!
Hashtag 31JHG.
Eh oui, elle a réussi. Elle a appris son alphabet par cœur. C'est Vicky Langlois. Salut Vicky.
Salut!
T'as l'air en forme?
Hey, j'ai eu une super belle semaine, puis entrecoupée de films d'horreur et tout, fait que je suis en pleine forme.
Oui, puis de ce que je comprends, t'as été une championne des 31 jours, là. Le défi à date, tu le own.
Yes, sir!
Excellent, on va en jaser. Quelqu'un qui, tout le contraire, ne own pas le défi du tout, même le boud, mais on l'aime quand même, c'est Jean-François Tremblay. Salut, JF.
Salut! Ouais, c'est ça, j'ai pas vu aucun film cette semaine. Ah non, j'en ai vu un, c'est vrai, mais il n'y a pas rapport avec la liste. Okay. Puis, en fait, la seule horreur que j'ai, dont j'ai profité, que j'ai consommé, ben c'est, je le montre ici à l'écran, mais c'est ce livre-là de Stephen King, le cinquième de la Tour Sombre. J'étais encore là-dedans, puis j'adore ça, fait que c'est mon horreur du mois d'octobre.
Fait que dans le fond, tu vas nous jaser un peu de tes suggestions que tu avais mis, puis si jamais on a vu un film que tu as vu, on en jase ensemble.
Oui, je suis là pour vous écouter, je suis là pour participer au show, mais c'est bien relax. Hein.
C'est toi qui vas gérer les réseaux sociaux.
Ah, d'accord.
Ah oui, bonne idée, d'accord. Ça.
Mais bon. D'ailleurs, justement, parlant des réseaux sociaux, oui, étant donné que c'est octobre, c'est le grand débrouillage d'Horreur Gamer, alors nos épisodes sont live, contrairement à habituellement, lorsque on enregistre live, mais seulement pour les membres qui ont payé sur notre Patreon, donc pour 3-4 personnes seulement. Et là, non, écoute, on est pour une foule en délire, 11 personnes présentement. Donc, c'est ça, c'est dommage si vous écoutez en différé, mais il y a le party qui est pogné sur le chat de Facebook, mais bon. Si vous écoutez l'épisode en différé en MP3 sur iTunes ou whatever, vous pouvez retourner sur notre page Facebook et la diffusion live est encore là. Donc, vous pourrez vous la taper, vous verrez les commentaires et tous les Easter eggs cachés entre nos segments musicaux où on continue à dire de la merde pendant 15 minutes alors que pour vous, on vous fait écouter de la musique qu'on a choisie sur le fly et qui est peut-être même pas bonne. Donc, non, mais je niaise. Mais donc, c'est ça, oui. Pour ceux qui nous écoutent live, vous vivez l'expérience à Patreon pour le mois d'octobre avec Horror Gamer. J'avais lancé l'idée au dernier épisode. On n'a pas eu le temps vraiment d'en jaser. Mais on regardera peut-être pour peut-être diminuer le coût pour assister aux épisodes live. Là, je pense que c'est 3$ par mois. On regardera là, peut-être, ben, c'est ça, 1$ ou 2$, whatever. Le but, c'est qu'il y ait le plus de patrons possible, le plus de monde live. Là. C'est pas d'en faire un club exclusif. Donc, ce serait cool de toujours avoir une dizaine de personnes comme ça qui nous écoutent live à toutes les soirs. Donc,
parce qu'il faut payer un micro à Vicky.
C'est ça, on le veut. Puis des fils, écoute, des fils d'écouteurs, parce que bon, ça a l'air qu'elle a un chien.
Un micro moi, sans fil.
Un micro sans fil.
Oui, un micro casque.
Ah, et sans fil, c'est malade. OK, le prochain qui donne 150$, on lui en paye un.
Donc, on fait le show chez vous. Je fais pas attention à mes affaires, faites pas ça.
150$, on fait le show chez vous.
Mais non, mais vous allez être déçus. Là.
Ouais,
vous allez
après
me
deux
le
semaines.
Massacrer. Vous allez me voir le massacrer live. Genre, faites pas ça.
On
pour
va,
vrai,
on va
vous
regarder,
allez
vous
allez broyer.
Les fans, on va voir plein de monde se désabonner du Patreon.
Vous allez me voir, genre, cruncher. Je vais manger des chips. Je vais pogner le micro, faire fuck. Je vais tosser le micro. Alors, du gras partout, c'est vraiment pas une bonne idée.
J'ai mis du gras partout sur mon micro.
Et voilà!
Pour faire référence à un certain podcast qui existait à l'époque.
Et...
Hey, les amis, on se met une petite madame qui crie, puis on commence tout de suite avec le jour 1 des 31 jours d'horreur. Alors, on commence les 31 jours d'horreur avec le jour 1. Tchit, oui! Comme ça fait bien les choses. Jour 1, premier jour d'horreur.
Mais moi, en fait, je trouve ça super pratique parce que tu vois, je suis un peu mêlée dans la vie. Fait que là, je me dis, hey, on est le jour 4. Quel film que je dois. On est le 4 octobre. Quel film je dois écouter? Hey, c'est ça là du jour 4. C'est est-ce pas... que c'est bien fait? C'est bien fait? Facile, ça fait
c'est pas
ça?
Comme quand on était jeune à l'école où, tu sais, ta semaine d'école avait 7 jours, là, mais t'as un 5 jours d'école. Fait que là, le mardi tombait le jour 2, puis là, après ça, le mercredi. Le mardi d'après, c'est le jour 7. Le mercredi tombait le jour 1. Puis là, t'étais comme
Là, t'avais une tabarnak de pédagogique. Fait que t'avais deux fois. T'avais jour 5, jour 4. Puis là, tu tombais jour 7. Ah, tu sais que ça avait pas de bon sens.
Écoute. Non, on n'est pas de même, Horror Gamer. Donc, Sako Gramoul nous dit que ça existe encore. Bon, mais coudonc. On n'est pas fou. Jour 1. La religion. Et là, écoute, on a eu Vicky qui a enfin fait quelque chose qu'on a voulu faire depuis longtemps. Et c'est écouter The Devils de Ken Russell, 1979. Parle-nous-en, Vicky!
Ben, c'est parce que pourquoi qu'on voulait le faire depuis longtemps, c'est que c'était sur ta Shameless. C'était un film qu'on devait voir, puis moi, je le connaissais pas du tout. Et quand on devait l'écouter sur Shudder, puis genre la veille de l'épisode, le film était plus sur Shudder, fait que personne l'a vu finalement. Yes. Mais moi, ça m'a vraiment trotté dans la tête parce que on avait une longue conversation sur le film avec les scènes censurées et tout, puis on aurait dit que ça m'avait vraiment captivé et je voulais le voir absolument. Et pourquoi je tenais à en parler ce soir, c'est que oubliez tout ce que vous avez lu, ça n'a pas rapport. Pour vrai, là, scènes censurées ou pas, ce film-là est beaucoup plus intéressant pour ses personnages que pour ses scènes en tant que telles. Chaque personnage est tellement complexe. Moi, j'ai trouvé ça incroyable comme film parce que chaque personnage est détestable et aimable tout à la fois. Chaque personnage, ils sont vraiment complexes. Par exemple, le roi de France, qui est un putain de crétin au début du film, vaniteux, au-dessus de ses affaires, hautain, qui tire à bout portant sur son peuple. Mais dans la scène suivante, vraiment plus tard dans le film, il revient, puis il est genre renard, judicieux, intelligent. Puis il dit, je suis quand même le roi, tu me laisseras, tu sais, tu m'en passeras pas une, là. Puis c'est de même comme pour plein de personnages qui, par exemple, j'ai même pas fait l'histoire du film. L'histoire du film, c'est un prêtre qui est dans une ville, puis il est vraiment populaire, puis il est sexy, puis tout le monde l'aime. Sauf que c'est un prêtre, excusez si je me trompe de religion, mais c'est un protestant. Et là, on est à une époque de Louis XV où la France devrait être catholique au grand complet. Et on est avec le fameux cardinal de Richelieu, là. Tu sais, le méchant en rouge dans les films de Mossad. Et le cardinal de Richelieu veut que la France au complet soit catholique. Et il reste une petite ville où il reste protestante, puis qu'il y a vraiment des forts, puis des murailles, puis des murs protestants. Puis c'est vraiment une ville fortifiée protestante. Et il veut cette ville-là. Et le roi de France ne veut pas, parce qu'il dit qu'il s'entend bien, entre autres, avec le prêtre sexy, entre autres. Il dit, moi, t'as pas besoin. Prends toute la France, sauf celle-là. Mais le cardinal de Richelieu veut pas. Fait, il saute sur l'occasion, à un moment donné, que je nommerai pas, mais il saute sur l'occasion pour dire que ce prêtre-là fait de la sorcellerie. Et on vient faire le procès de, est-ce que le prêtre est un sorcier, est un démon, et est-ce qu'il a envoûté les gens, ou en fait, c'est qu'un stratège politique, un stratagème politique.
C'est ça qui est une histoire vraie.
Et tout ça est une histoire vraie. Et le film en 2017 est vraiment intéressant pour le stratagème politique. Mais tu sais, par exemple, on fait venir une espèce de gourou catholique qui est capable d'exorciser tout le monde. Tu sais, c'est un top chef dans son domaine. Puis il arrive, puis on dirait vraiment une rockstar. Puis il y a des petites lunettes mauves rondes. Tu sais, pour des années 70. Fait qu'on dirait vraiment un Beatles avec sa cape, puis il est sexy, puis il est vraiment sexy, là, il montre souvent ses muscles, tu sais, puis... Mais ce gars-là croit en ce qu'il fait, puis c'est ça qui est fou, c'est que tous les personnages croient ce qu'ils disent et ce qu'ils font, et quand c'est démontré clairement que le prêtre ne fait pas de sorcellerie, ben là, ils sont tous en tabarnak, mais ils n'ont pas le choix, parce qu'ils vont perdre leur crédibilité s'ils décident que finalement, il l'est pas, fait qu'ils sont comme, ben, on va aller de l'avant, on n'a pas le choix, faut aller de l'avant. Mais certains, c'est même pas, on n'a pas le choix. Certains, c'est, voyons donc, c'est pas parce qu'il n'a pas avoué que c'est pas vrai. Fait que, tu sais, c'est vraiment un jeu politique dans ce film-là. Puis c'est ça que j'ai trouvé fou parce que quand on en parlait, puis qu'on lisait, ça, c'était des scènes censurées, beaucoup de sexe, des orgies, blablabla. Mais ça, c'est si peu important par rapport à vraiment tout ce qui se passe dans le film au niveau du jeu politique. Ou, tu sais, je me souviens plus pourquoi, parce que vivre une semaine, j'ai vu plein de films depuis, mais je me souviens qu'à un moment donné, le prêtre, t'as vraiment, vraiment, vraiment pitié pour lui. Puis là, il fait un discours à la caméra, puis tu fais, mais il est vaniteux! Il est prétentieux. Il mérite de mourir.
Ah, c'est un des meilleurs rôles d'Oliver Reed là, en carrière. C'est incroyable. Ouais. Il est bon, là.
Fait que ça, c'est vraiment frustrant parce que tu le sais qu'il n'a pas fait de sorcellerie. Je veux dire, on est en 2017. Là. Il n'a pas ensorcelé personne. Là. Tu le sais que c'est pas vrai. Puis tu le sais que c'est contre lui. Mais lui, par vantardise, il doit se montrer au-dessus de ça. Puis c'est même pas juste pour laver son nom. À un certain moment donné, c'est vraiment pour dire « Je vais aller là, puis ils vont me croire parce que je suis beau, là. » Tu sais, c'est quasiment ça, là. Mais, fait que le film, il est vraiment à voir. Puis moi, j'ai essayé de trouver d'autres films qui ressemblaient à ça. Puis à part Satyricon, de... C'est pas Pasolini, celui-là. Peut-être que tu t'en souviens, JF. Satyricon.
J'aurais pensé que c'était lui, c'était Pasolini, mais...
Oui, c'est Pasolini. Satyricon, c'est Pasolini.
C'est possible.
J'appelle ça les espèces de films gras. Puis gras parce que les gens sont pas propres, sont maquillés, sont fardés, là. T'sais, ils ont comme... sont gras, mais pas... C'est pas une question de grosseur, de poids, là. Tout est gras, tu sais, tout le vêtement est sale, les gens sont... Tu sais, tu sens que c'est une belle reproduction de l'époque, puis c'est le feeling. Je me souviens très peu de l'histoire de Satyricon. Ah, La Montagne Sacrée aussi m'avait fait...
C'est Fellini.
Ah, d'accord.
Merci. La Montagne Sacrée aussi m'avait fait ce feeling-là de... Ben, de Devils, il y a plus d'histoire que La Montagne Sacrée et Satyricon, mais ces trois films-là m'ont fait le feeling que chaque composition d'image est tellement peuplé de détails qu'on peut faire pause à n'importe quel moment et regarder ce qui s'y passe.
C'est le premier film de Ken Russell que tu vois?
Je pense que oui. Okay. Je pense que faudrait que je regarde.
Son cinéma des incendies 10 est assez... Son cinéma des incendies 10 est vraiment intense, là. C'est... Comme tu dis, les images remplies de détails puis tout, là, c'est fou.
Tu sais, les blancs sont pas blancs. Les blancs sont beige. Les blancs sont cassés. Tu sais, les noirs sont... Puis là, je parle vraiment d'une tache de gras. Là. Les noirs
c'est
sont
le fun, quand dans un film, les lieux ont du vécu, puis t'as l'impression que oui? Ça vient pas juste d'être peint. C'est pas un studio là,
ouais,
qui vient juste
exact,
d'être peint. Là.
Et voilà, t'as vraiment jamais de feeling de studio dans ce film-là. Puis c'est ça qui est incroyable. Puis ça m'avait fait le même feeling que Satyricon et La Montagne Sacrée, qui sont des films dont je me rappelle pas beaucoup l'histoire, mais j'ai des images en tête qui m'avaient vraiment marqué. Je pense que The Devils, ça va faire ça. Dans un an ou deux, je me souviendrai pas de l'histoire, mais je vais me souvenir de beaucoup d'images marquante sur l'ambiance qu'on a donnée à ce film.
Moi, je suis rendu là dans le cheminement. Je suis rendu 6 ans après l'avoir vu, puis j'ai des images. T'sais, j'ai l'image de Oliver Reed qui se fait torturer, qui c'est assez dur à voir ces images-là. J'ai Vanessa Redgrave qui est phénoménale dans ce film-là. J'ai des images comme ça qui me ressortent, mais j'ai pas. Tu résumais l'histoire, j'étais comme ah oui, ok, c'est un prêtre sexy. Je m'en souvenais plus de cet aspect-là.
C'est ça, puis tu sais, le prêtre est dans sa tour, puis on détruit tous ses livres, puis tu sais, fait qu'il y a cette espèce de le contraire de la candeur, là. T'sais, cette espèce de machiavélisme dans l'acte. Tu sais, il pousse la bibliothèque, mais il prend son temps pour la pousser, puis on prend le temps de la voir se détruire, cette bibliothèque-là. Fait qu'il y a du symbolisme dans chaque plan. Pis c'est ça que je veux dire, en fait, par gros. C'est qu'il y a beaucoup de symboles. Puis tu sais, c'est le roi, là, quand il arrive, le roi, il est soutenu par 8 personnes, puis il touchera jamais personne, puis il touchera jamais le plancher, tu sais. Mais tout autour, c'est normal. Versailles, quand on est à Versailles, avec les gens qui dansent comme des fous, puis c'est comme... Mais c'est normal, c'est rien que ça qu'il y avait à faire. Fait que c'est faste. C'est grandiose comme film. Fait que moi, là, je voulais absolument parler parce que je voulais enlever un peu le mythe que je lisais sur Internet de « Ah, oh, il y a des orgies, du sexe pour détruire l'Église. » Non, c'est plus que ça. C'est des personnages hautement complexes. Tu sais, il y a un troupeau de nonnes, là, c'est pas à dire, mais c'est vraiment rien que ça. Ils n'ont aucune personnalité, là, c'est vraiment un troupeau de nonnes. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que sont ensemble, ils crient ensemble. Ils sont terrorisés ensemble. Ils sont dans l'orgie ensemble. Ils font les folles ensemble. Tu sais, quand ils font les folles là, dans l'orgie, tu comprends pas. Fuck all. Pour vrai, j'ai reculé souvent pour faire, mais pourquoi ils font ça? C'est vraiment pas clair pour moi, mais ils le font en groupe, ensemble, en troupeau. Puis ça m'avait impressionné, par exemple. Fait que pour vrai, là, il est à voir absolument ce film-là.
Good.
J'allais louer sur iTunes.
Pour l'aspect sorcellerie, je voulais profiter pour re-mentionner un film dont j'ai déjà mentionné quand on a fait notre épisode sorcière. Puis on n'a pas de thématique sorcière au mois d'octobre, je pense, fait que je vais en profiter. J'avais J'avais mentionné un film des années 40. C'est juste l'aspect, tu sais, être accusé de sorcellerie qui rejoint un peu ça. C'est un film qui s'appelle Jour de colère de Carl Theodor Dreyer. C'est 1943. Puis c'est ça, c'est une femme qui est accusée de sorcellerie. Mais tu sais, c'est pas dans le sensationnalisme, c'est pas dans les effets spéciaux, quoi que ce soit. C'est juste dans la paranoïa, puis la réalité de toute la situation. Puis tous les petits gestes qu'elle fait sont épiés, puis deviennent accusateurs, deviennent des gestes comme. Ah, je pense que c'est une sorcière, elle, puis tout, tu sais, puis ça peut l'amener au bûcher, fait que c'est vraiment épeurant comme film, puis tu sais, il y a des scènes qui brisent le cœur dans ce film-là, puis moi, j'adore ça, le côté paranoïaque de ça. Puis ça me fait penser, le mois dernier, je lisais justement le quatrième livre, La série La Tour sombre, de Stephen King, puis il y a une scène de, sans vouloir rien spoiler, il y a une scène de bûcher qui m'a brisé le cœur aussi. Tu sais, quand tu lis quelque chose, puis t'es tellement dedans, puis là, tu lâches un gros soupir, t'as quasiment envie de brailler, puis c'est comme, My God, si, j'étais comme, ah, oh, des gros frissons, là, mais ça m'a marqué, cette scène-là. Puis, ouais, non, c'est ça, mais Jour de colère, c'est recommandé. Puis The Devils, j'abonde aussi dans le sens que c'est vraiment très, très bon. J'ai eu la chance, je suis vraiment content, j'ai eu la chance de le voir sur grand écran à Fantasia en 2010 ou 2011, en présence du réalisateur, quelques mois avant qu'il décède. Fait que j'étais déjà fan de lui, mais mon film préféré de lui, c'est Tommy, mais c'est l'opéra rock du groupe The Who. Il a fait une adaptation au cinéma en 75, puis c'est quand même débile comme film. Puis, c'est ça, j'adorais beaucoup Ken Russell, puis c'était la première fois que je voyais The Devils, puis j'étais comme, il est là, je le vois sur grand écran. C'est la meilleure façon de le
Ça
voir, le
devait
film.
être tellement angoissant puis étouffant sur le grand écran parce que ça devait comme avoir l'impression qu'il était partout.
Oui.
Tu sais? Comme, wow, il y a du monde partout, partout, tout le temps, là, tu sais?
Ah, l'image est tout le temps pleine, c'est ça.
C'est ça, l'image est tout le temps pleine, tu sais? C'est grandiloquent comme film, puis ça vaut la peine.
Cool. Donc, si vous avez de quoi à retenir, c'est que faut écouter The Devils et tu disais un jour de colère.
Oui.
On passe suite à la deuxième journée des 31 jours d'horreur, journée crocodile, excusez, requin.
Bébête avec des dents.
Des bébêtes avec des dents, écoute, on n'en reviendra pas là-dessus, mais on sait que Vicky allait écouter Eaten Alive, on en a assez parlé pendant le premier épisode,
Oui,
on
écoutez le premier
serait.
épisode pour comprendre. On a même
Ouais.
mis une image sur Instagram de
Ouais.
ma confusion totale.
Ouais. Juste pour savoir, Vicky, Eaten Alive, c'est-tu bon?
Ah, c'est bon, c'est pas son. Je préfère encore Texas Chainsaw Massacre du même réalisateur. Mais j'ai bien aimé, puis on m'avait dit qu'on voyait pas le croco, mais non, j'étais très satisfaite en croco.
Cool. Bon, pour film de requin, moi je suis allé avec 47 Meters Down. Je sais pas c'est quoi en français. Je pense qu'il est sorti cette semaine. 47 mètres en dessous, peu importe. Film avec Mandy Moore. Prémisse très simple, deux filles qui veulent se changer les idées alors qu'elles sont un peu dans les pays du sud et qui décident d'aller faire de la plongée, mais tu sais, dans une cage.
Oui.
Pour aller observer des requins. Et chose tourne mal, la cage tombe dans le fond de l'océan, à 47 mètres. Ben, elles sont prises là, peuvent pas ressortir de la cage parce qu'il y a des requins partout. Puis, ben, on sait que quand on remonte quand on fait de la plongée, tu peux pas remonter rapidement parce que sinon, je sais pas trop c'est quoi le
La
phénomène, mais.
pression, là, je pense,
Ouais, un
moi
truc
je
de
sais pas trop.
pression, puis avoir de quoi qui va te monter au cerveau, en tout cas. C'est ça, fait
Pas
que là,
dans.
tout est danger.
Je cherche dans quel film
Abyss.
qui avait. C'est-tu Abyss ou bien Léviathan qui a un personnage que la tête explose ou quelque chose du genre, ou
Ah,
lui,
oh,
c'est
je sais
comme il y a
plus.
trop de. Ah, je me
Je
souviens
sais
plus.
plus.
C'est dans. T'sais, Abyss, pourtant, je l'ai vu souvent, il me semble, c'est pas dans Abyss, en tout cas, peu importe. Mais ouais.
Donc, c'est ça, ça met en vedette Mandy Moore, je me souviens plus qui. Je sais que ça a été le film de Steven aussi, puis je vais essayer de voir qui l'a réalisé. C'est Claire Holt, l'autre actrice, et c'est une réalisatrice, Joanne Robert, qui a fait aussi The Other Side of the Door. Puis Storage 24, le film F. Écoute, j'ai pas vu autre chose d'elle. Ce sont pas mes films que j'écoute. Réalisation très bien. J'ai pas trippé sur le côté requin du film. Les requins, ça a jamais été quelque chose qui m'a fait peur dans la vie, là. Fait que c'était pas le stress, mais je suis semi-claustrophobe. Et je ne ferai jamais de plongée sous-marine dans ma vie. Là. Tu sais, j'ai fait du saut en parachute, mais de la plongée sous-marine, je triperais pas. Là. Fait que c'est un peu comme genre de Descent. Je n'aurais jamais été faire de la spéléologie. Ben, dans The Descent, le côté spéléologie me faisait plus peur que les bobites. Bon, ben dans 47 Meters Down, les requins me faisaient moins peur que la plongée sous-marine. Et c'était stressant, là. Moi, la plongée sous-marine, il y avait vraiment des trucs qui étaient solides là-dedans. C'est ça, côté requin, j'ai pas trippé. La finale du film est très, très... est comme très annoncée, est très... Il y a comme quelque chose qui est dit un moment donné, puis tu fais comme, OK, c'est ça, certain que ça va nous arriver dans la face, puis évidemment, ça nous arrive dans la fin. Alors que c'était totalement inutile comme finale, je vous spoil pas le film. Mais j'ai trouvé que c'était un bon divertissement quand même. Ça va pas juste... bien des films de requins. Excuse-moi.
Non, c'est juste t'entendant. C'est le fil qui a bougé si vous entendez en double.
Non, c'est correct. Okay, on entend très bien. Donc c'est ça. C'est pas le meilleur film de requin. Dernièrement, The Shallow, j'ai beaucoup plus aimé. Je sais que Steven a plus trippé que moi sur 47 Meters Down. Marc-Antoine, la bonté sur le chat dit il va y avoir une suite qui s'appelle 48 Meters Down. Dis-moi que c'est un gag, s'il te plaît, Marc-Antoine. Si c'est un gag, il est drôle. Si c'est pas un gag, je le trouve vraiment trop bizarre. Mais donc, c'est ça. Il y a vraiment des bonnes idées dans ce film-là, des bonnes idées de suspense, mais c'est ça. Moi, la finale, j'ai pas trippé. Et c'est ça. Les requins devenaient des jumpscares plus que des vraies menaces. C'était comme « Bah, requin! » Oh, j'ai fait le saut. T'sais. C'est tout le temps ça. Mais donc, c'est ça. Mais toute l'idée de manquer d'oxygène, d'avoir à remonter ouais. Ou pas, pis tout ça, c'est trippant. Ça m'a vraiment tenu en haleine. C'est ça. Dans les derniers films de requins, à part de Charlotte, oui, je dirais que c'est pas mauvais, mais écoutez de Charlotte avant si vous l'avez pas vu. Et Marc-Antoine, la bonté vient de nous donner la page IMDb de 48 Meters Down. Oh boy!
Ok, là j'ai envie de le voir.
Ouais. Tu te fies vraiment à ça, ben c'est
ouais, écoute, fait ouais, c'est là, ça. En tout cas. Et j'en dis pas plus sur 47 Meters Down. Les effets spéciaux sont très bons. Tout ça, c'est sûr que c'est un peu bizarre de les voir se parler sous l'eau. Il y a de quoi. Il y a de quoi d'étrange, là. Je sais pas c'est quoi les micros ou les. Comment ils réussissent à s'entendre, là, mais j'ai comme fait abstraction de tout ça, sinon on aurait dit que ça allait me gosser tout le long du film. Puis j'ai surtout aimé que le film, mine de rien, c'est un film qui se passe en plongée tout le long. Puis ça, je sais pas, mais c'est une des premières fois. On sort jamais de l'eau. Fait que le tournage a été en plongée sous-marine tout le long. Les actrices ont passé le temps du tournage sous l'eau. Fait que ouais, ça donne dire, quand même un bon effet, le fun.
The Abyss, ouais. Mais ils sortent quand même de l'eau.
Non, ils sont des fois dans le... Là, c'est comme...
Puis le Grand Bleu de Luc Besson, mais ils sortent de l'eau aussi, mais c'est beaucoup dans l'eau. Là.
Ouais, mais non, c'est ça. Ça c'est claustrophobique. Ouais, c'est la ça. Quelqu'un qui l'est, là, très propre. Là. 90% du film est sous l'eau. Fait que c'est trippant pour ça. Moi, j'ai trouvé que c'était une belle... c'était une belle façon d'amener tout ça. Donc,
oui. Je voulais juste dire, j'ai retrouvé la scène de la tête qui explose, puis c'est pas dans The Abyss, c'est pas dans Leviathan, c'est dans l'autre film de cette trilogie sous-marine de 1989-90, c'est Deep Star 6. Okay. C'est l'acteur Miguel Ferrer, je pense, sa tête explose. J'ai vu une scène sur YouTube, ça avait l'air d'être lui, fait que... à cause de la décompression.
JF, toi, tu nous avais pas suggéré un film de requin qu'on était habitué d'entendre, tu nous as suggéré Jaws, mais Jaws 2.
Ouais, ben c'est ça, comme je te disais avant l'enregistrement, je me disais en faisant la liste que tout le monde allait suggérer Jaws, en tout cas, que c'était un petit peu trop banal de suggérer Jaws. Fait que je me suis dit, Jaws 2, j'ai vu les quatre films l'année passée pour un épisode du Bras de fer des films, puis je m'étais rappelé à quel point j'aimais Jaws 2, puis surtout, je me rappelle pas lequel j'ai vu en premier quand j'étais jeune, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé Jaws 2 quand j'étais petit, puis justement, tu sais, le film met en vedette beaucoup des jeunes qui sont comme naufragés sur des petits voiliers, des trucs comme ça, pendant la deuxième partie du film. Puis ça me rejoignait beaucoup quand j'étais petit. Fait que je sais que ça fait grincer des dents beaucoup de monde. Peut-être à l'âge adulte, ce film-là, parce que c'est moins, peut-être moins sérieux, moins compétent que le premier, mais je le trouve quand même encore sympathique. J'aime que ce soit encore Roy Scheider qui soit l'acteur principal, puis que à la fin, j'aime beaucoup sa solution pour se débarrasser du requin. Puis, je sais pas, j'aime quasiment autant ce film-là que le premier. Je sais que le premier est plus compétent, puis c'est un classique du suspense au cinéma, mais celui-là, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de qualité. Puis ça me tentait de le suggérer. Je le trouve le fun. Puis mon mois d'octobre, mes suggestions, c'est pas mal toutes des films que je trouvais le fun. C'était ça mon but, là, c'était de. C'est pour ça qu'on a éliminé un peu le gore, puis le. Pas le gore, mais c'est surtout le
Rape and
torture porn, des affaires comme
Revenge, ouais.
ça, tu sais. Moi, je voulais des suggestions qui étaient le fun, les légères entre guillemets, là, mais c'est ça.
Ouais.
Jazz, c'est le fun.
Bon, tu vois, Véronique sur le chat nous dit qu'elle avait jamais vu Jaws, elle a essayé puis elle a dormi. Ben écoute, c'est sûr, c'est un peu. À chacun ses classiques. Il y en a qui, pour qui des classiques ne deviendront pas.
Ben, c'est
On a
sûr que dans
tous
le
un classique à
premier.
quelque part qu'on fait comme. Hey, je comprends pas.
C'est
Vas-y,
sûr que dans le
Steph.
premier, tu vois le requin genre 5 minutes en tout, tu sais. Fait que c'est sûr que.
Non, c'est ça. Puis.
C'est pas évident, tu sais. C'est sûr que c'est. Puis il est long, le premier. Il est vraiment long. Il est comme. Ouais, c'est ça, il est long.
Si
Mais toute
t'étais
la passe sur le
fatigué,
bateau
là.
à la fin avec.
Ouais.
T'écoutes l'histoire de. Je cherche le nom de l'acteur, mais j'ai oublié. Mais.
Gregory Peck, non? Non, c'est.
Non,
Je
non,
me
c'est.
mélange-tu? Me mélanges-tu de
T'as
film,
Roy
moi?
Scheider, t'as Richard Dreyfuss, puis t'as l'autre qui
Pourquoi
est.
j'irais-tu à Gregory Peck?
J'ai oublié son nom.
Robert Shaw?
Mais. Robert Shaw, c'est son histoire, puis
Oui,
tout.
c'est
C'est long, c'est long. C'est intéressant, mais c'est long. Faut que tu sois bien, bien réveillé là, pour l'apprécier.
Non, en effet, c'est ça. C'est un film qui a un certain rythme, mettons. Puis c'est pas un film qui est fait pour avoir du plaisir là, puis de faire comme yeah, des requins, puis ouais, non, non. C'est pas. Si tu veux.
Ça t'arrive pas d'en face comme Jaws 3, là, avec des effets
Non!
spéciaux de boboche, là.
Non. Puis non, c'est ça. Je veux pas spoiler, là, mais tu sais, je parlais de jump scare de requin dans 47 Meters Down. Il y a des très bons jumpscares de requins. C'est pas des mauvais jumpscares de requins. J'étais sur le divan, j'écoutais mon film avec mes écouteurs. Ma blonde dormait sur la chaise berceuse. Puis maintenant, en fait, ok, je m'en vais dans le lit, là. T'es tannant. Je lâchais des tabarnak. Donc, hey, tout le monde, sur le chat, avant qu'on passe à la troisième journée des 31 jours d'horreur, partagez donc l'épisode présentement. Invitez vos amis à venir nous joindre sur le chat puis à écouter ça live avec nous. Donc, plus on est de fous sur le chat, plus on rit et plus on a peur. Parce qu'on a peur de perdre le contrôle. Donc,
En tout cas, ça jase beaucoup
oui,
du film de
vraiment,
requin, c'est le fun.
j'ai comme de la misère à suivre puis c'est tant mieux. Troisième journée des 31 jours d'horreur, c'était les poupées. Donc, on est allé avec plein de belles suggestions. Vicky, toi, tu nous avais suggéré Annabelle
Ouais,
Creation, mais
mais
c'est pas ça que tu as pu écouter.
je n'ai pas écouté pantoute, celle-là, j'ai dû sauter parce
Tu
que
l'as.
je pensais que le film sortirait, mettons, plus loin en octobre. Doit bien sortir en DVD année, ce monde film-là.
Je me souviens plus c'est quand, mais je crois que ça se pourrait qu'on était en octobre. Si Steven était là, il nous le dirait parce qu'il l'a sûrement précommandé déjà. Jeff, toi, tu nous avais mis sur ta liste Magic.
Ouais, ben, j'ai vraiment beaucoup aimé le film quand on a fait notre épisode. Puis pas longtemps après l'épisode, j'ai lu le livre, j'ai capoté sur le livre, j'ai trouvé que les deux œuvres se complètent, là. C'est. Dans le livre, tu apprends un petit peu plus de trucs sur le personnage principal, puis c'est ça, sur son passé, puis tout. Mais les deux se complètent vraiment parce que dans le film, tu as la performance d'Anthony Hopkins qui est
Incroyable.
magistrale. Je l'ai vu souvent dans plein de films toute ma vie, mais ça a été une découverte, là. J'étais comme. Wow! En partant dans sa carrière, il était fort de même. C'est comme, wow! À côté de, ça accote Hannibal Lecter là, facilement. Là,
Vraiment, vraiment.
c'est vrai, il est vraiment fort là-dedans. Fait que non, Magic, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis je le recommanderais 1000 fois à n'importe qui. C'est ça.
Écoute, moi,
Écoutez-les.
c'est honnêtement, c'est à date, là, on est le 8 octobre et c'est ma découverte de l'année. Magic.
Ouais,
C'est le
ouais.
film dont j'ai le plus le goût de parler cette année. Mais non, ben écoute, j'ai pas écouté Magic parce que moi, c'était une question de faire ma shame list ou en tout cas des films que je n'avais pas vus. Donc, ben, j'ai écouté le Cult of Chucky. Ce nouveau
Ah, le fameux.
Chucky.
Puis là,
Oui.
l'as-tu écouté sur Netflix ou tu l'as écouté en Blu-ray? Parce que là, sur Netflix, il est censuré puis il manque des scènes.
Écoute, il manque beaucoup de choses sur Netflix, paraîtrait. J'ai écouté version non censurée. Et je suis content d'ailleurs parce qu'il y a une version, ben, il y a une scène à la fin. Et Puis le gore est très gore, là. Il y a des scènes très gore que je me suis dit, oh mon Dieu, c'est plate s'il manque ça. C'est comme un petit. Il y a des petits bonbons de temps en temps dans le film. Mais je suis comme dans l'entre-deux. On a vu du monde bâcher ce film-là comme si c'était le dernier étron qui était sorti d'une caméra. T'sais. Mais. Puis tu sais, tandis que t'as d'autres mondes qui disent que c'est un des meilleurs Chucky. Moi, je suis dans l'entre-deux. Moi, je ne suis pas un fan fini de la série de Chucky. Fait que j'ai pas de parti pris là-dedans. J'ai vu le 1, le 3, il y a très, 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 très longtemps. J'ai jamais vu aucun Bride Seed et tout ça. Et j'ai vu le Curse of Chucky qui était sorti il y a 3, 4 ans, peut-être. Je me souviens pas exactement.
Ouais, je pense, ouais.
Ouais. Et que j'avais adoré, que je trouvais que c'était un excellent reboot. Et. Ben, un reboot, en tout cas, qui était une belle renaissance de la franchise. Et j'avais très hâte de voir Cult of Chucky. Mais j'ai trouvé que la première partie du film, la première moitié, je l'ai trouvée excessivement longue. J'ai pas trippé sa première partie du film. J'ai même été obligé de faire revenir certains moments parce que je me suis endormi dessus, honnêtement. Ça a pris du temps avec le film démarre, mais dès que le film est démarré, que Chucky est arrivé avec son humour, avec ses kills, là, j'ai réussi à avoir du fun. Mais comme je suis pas un fan de la série, il y a plein de bonbons pour les fans qui étaient là que moi, j'ai pas apprécié. Tu sais. Il a fallu que je demande des choses à Steven. ah ben, tu sais, des fois, Chucky faisait des gags, puis je fais comme, ah, ok, ça doit faire des références à un des films, j'imagine. T'sais, tandis que j'imagine qu'un fan de la série doit s'esclaffer. Mais c'est ça, j'ai trouvé que la réalisation est bonne. On sent que le réalisateur a pas eu Don Mancini, si je ne me trompe pas, c'est ça son nom. A pas eu les moyens maximum pour faire son film, fait qu'il a dû quand même pas tricher, mais il a dû s'arranger avec les moyens du bord, être inventif. Mais il y a des choses dans le scénario qui m'ont titillé. T'sais, le film se passe dans un asile où la fille qui jouait dans Curse of Chucky, je me souviens plus de son personnage, Nika qui est interprétée par la fille de Brad Dourif, est rendue dans cet asile-là parce que elle est folle, entre guillemets, parce que ils disent ouais, t'as tué ta famille, puis elle a dit non, j'ai pas tué ma famille, c'est Chucky. Fait que bon, ben tu penses que c'est une poupée qui a tué ta famille, on t'enferme. Mais cet asile-là n'a aucune caméra de sécurité.
Ah.
Il y a des meurtres qui commencent, il y a des trucs louches qui se commencent, mais il y a personne qui est capable de voir sur les caméras de sécurité que dans les couloirs, c'est Chucky qui marche. Tu sais? Alors que j'étais comme voyons, donc. Oh. Non, tu sais.
Ça, c'est dans celui-là, là. Ça, c'est dans celui-là, là. Pas l'autre d'avant, ok.
Non, fait que tu sais, ça m'a gossé, tu sais. Je me disais, non, ok, oui, ça t'arrange qu'il n'y ait pas de caméra de sécurité, là. J'ai peut-être manqué une phrase à un moment donné qui expliquait pourquoi il n'y en avait pas, mais j'y crois pas, là, tu sais. Je vais à l'hôpital ici, là, à l'urgence, puis il y a des caméras de sécurité. Fait que, imagine dans un asile, qu'il y a du monde qui sont peut-être semi-dangereux. Tu veux les surveiller, tu barres le porte quand c'est le temps d'aller se coucher. J'imagine qu'il y a des caméras de surveillance, tu sais. Puis des trucs bizarres comme il y en a une qui est un peu suicidaire, puis elle trippe bien gros sur la poupée de Chucky, mais ils disent, va falloir que tu nous donnes ses souliers parce que faut pas qu'on te laisse avec des lacets, parce qu'elle pourrait se pendre. Mais pendant cette scène-là, en arrière-plan, tu vois une lampe de chevet. Puis tu te dis, ouais, le lampe-là est clairement branché à quelque part, fait que tu sais, t'as un fil de courant, tu sais. J'étais comme, il y a des trucs dans le film qui te gossaient, mais c'est pas, écoute, je veux dire, j'irais pas bâcher le film parce qu'il y avait une lampe de chevet pendant d'une chambre d'une fille qui a des tendances suicidaires, mais tu sais, ça gossait.
Tu peux bâcher le scénario en disant qu'ils ont pris des raccourcis quand même.
Ils ont pris certains raccourcis, exactement. Mais il y a vraiment des bonnes passes, des gags vraiment efficaces, mais surtout, puis ça, je peux pas le spoiler parce que c'est vraiment une très bonne idée. Je pense que la série de Chucky, on peut lui donner ça. C'est une série qui essaie jamais de refaire la même recette. Elle essaie toujours de faire de quoi de nouveau, tu sais, d'intégrer d'autres poupées, de faire en sorte que Chucky ait un enfant. Et là-dedans, il y a encore quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est vraiment une excellente idée, là. Ça donne vraiment une finale où ce que tu fais, ok, je veux vraiment voir la suite. Je veux vraiment voir la suite. Si vous êtes allé à... Vous avez pris le... La voie allait tout droite, là, puis vous avez pris le champ, puis vous êtes parti dedans, là, tu sais. Pas qu'ils sont dans le champ, là, c'est juste qu'ils sont allés dans la trail, puis là, tu sais plus où ce qu'ils vont aller avec ça. T'sais, ils vont te surprendre, ils ont pas le choix, là. Il faut qu'ils réinventent. Fait que ça, j'ai trouvé ça le fun. Mais
est-ce que c'est encore la même homme? Est-ce que c'est le même homme?
Oui, c'est
la
encore
même...
c'est Charles, je sais plus trop quoi, là. C'est encore okay. Brad Dourif, c'est toujours le même. Mais c'est ça. Il y a vraiment une excellente idée dans ce scénario-là qui fait en sorte que la série peut prendre plein de nouveaux détours à cette heure puis de plein de nouvelles directions qui me satisfassent, qui me satisfont, en tout cas, qui me font beaucoup de plaisir. Mais donc, c'est ça. Je le recommande avec certaines réserves, là, puis... Mais c'est ça, je pense que ceux qui chient sur le film exagèrent peut-être un petit peu trop à mon goût.
Mais peut-être qu'ils n'ont pas compris aussi, tu sais, je veux dire, Chucky, c'est ce que j'ai vu souvent, j'ai une amie qui répondait « Oui, mais attends un peu, là, Chucky, c'est pas sérieux. » Je veux dire, tu bottes la poupée et ça finit là, fait
exact.
Si tu vois qu'on prend beaucoup de détours, c'est justement pour éviter que tu bottes la poupée et que ça finit là.
Non, ben, c'est ça, exactement, tu sais, fait que faut qu'il y ait d'autres faut que tu laisses certaines choses tomber. Là. Faut que tu t'acceptes certaines.
C'est ça.
Faut que tu acceptes certaines mécaniques de cette série-là.
J'ai vu dans mon jeune temps d'adolescente la poupée, la fiancée de Chucky. Puis tu sais, c'est juste drôle. Tu dis, ben, il y a des kills, le fun. Puis le film, il est drôle. Le film, il est drôle. C'est un humour. Tu sais, c'est autre chose. Faut que tu le prennes pour son humour.
C'est ça, exactement. T'sais, allez pas me dire que des films comme Friday the 13th puis Freddy Nightmare on Elm Street étaient...
sérieux.
Non, ou que tu sais, ils révolutionnaient à chaque film. Là. T'sais, on s'entend qu'ils s'assisaient sur le laurier. Là. Puis ils faisaient juste répéter toujours la même chose avec des nouveaux kills. Fait que tu sais, donnons à Chucky ce qui revient à Chucky.
Et voilà.
Sur ça, on irait faire une mini-pause musicale, les J'étais... amis. Oui, excuse.
Une petite seconde, parce qu'il y a Yannick Vachon qui te dit quelque chose, puis ça me fait rire. C'est comme, il te parle à toi directement. Il dit, dans un film avec une poupée possédée, t'aimes pas qu'il n'y a pas de caméra ou le fil de la lampe, mais tu donnes le bénéfice du doute à 47 meters down.
Je donnais le bénéfice du doute à 47 meters down sur des trucs physiques de plongée que je ne connais pas nécessairement. Alors, je pouvais pas aller critiquer ça sans avoir des sources fiables pour contredire le film. Si en bout de ligne, j'écoute le film avec quelqu'un qui fait de la plongée puis qui vient me dire il n'y a rien qui se peut là-dedans, fine, tu sais. Mais c'est ça, ça m'a juste gossé. Mais comme je disais, ça n'a en aucun cas scrappé mon expérience du film. Tu sais, j'étais pas en train de sacrer après le film puis oh les tabarnaks de caméra! Non, je vois bien qu'il y avait besoin de pas avoir de caméra pour que le film... fonctionne, mais j'ai trouvé que c'était un gros raccourci. C'est tout. Mais bon, donc, hey, je cherchais de la musique pour passer en musique pour notre épisode des 31 jours, mais elle a la musique. Elle nous est offerte sur un plateau d'argent par notre ami Guillaume Couture, qui à chaque jour des 31 jours d'horreur nous suggère une chanson. Il nous fait les 31 chansons d'horreur. C'est vraiment trippant parce qu'il fait pas juste nous pitcher une chanson comme ça au hasard. Il nous fait une belle historique, soit de la chanson, de son impression ou des fun facts sur la toune. Fait qu'allez voir ça aussi. Faites pas juste regarder nos films qu'on suggère, regardez les chansons qu'il suggère. Et pour cette première pause musicale, on va y aller avec la chanson He's Back, the Man Behind the Mask de Alice Cooper.
Oh,
on
yeah.
Se retrouve après pour les 4, 5, 6, 7 premiers jours d'horreur.
You're with your baby. We'll
Hey, à la fin des épisodes, on dit tout le temps « garder ça horreur ». Comment est-ce qu'on fait pour garder ça horreur?
Pour garder ça horreur, JF, il y a plusieurs moyens. Premièrement, sur iTunes, on peut donner 5 étoiles au podcast, en plus d'écrire un commentaire, comme ça, ça nous fait monter dans les recommandations. Ensuite, à la fin des billets sur notre site, on peut trouver un lien Amazon qui nous amène sur le site Amazon. Dès qu'on fait un achat, Horror Gamer reçoit une ristourne. Puis en plus, hey, c'est simple, tu peux juste en parler à tes amis puis dire à quel point Horror Gamer, c'est un podcast tellement cool.
C'est quoi l'adresse du site?
www.horrorgamer.ca.
Fait que tout le monde, gardez ça horreur.
Donc on est de retour pour la journée 4 des 31 jours d'horreur. C'est la journée des mockumentaires, ou allons-y avec un autre terme qu'on avait déjà utilisé dans un podcast consacré au thème, le documentaire. On avait utilisé ça aussi. Puis je trouve que documentaire...
Moi, ça me parle plus.
Moi, ça me parle plus aussi. Puis je me suis rendu compte de ça après tout ce questionnement sur les mockumentaires versus found footage. Puis je trouve que documentaire devrait être le terme qu'on utilise à partir de maintenant. Donc, à partir de maintenant, parle-moi plus de mockumentaire. On va parler de documentaire.
Ah, oh, merci!
Hey, Vicky, ton documentaire...
Ben, en fait, c'est ça, toute la saga, mais je la répète en quelques mots quand même pour vous faire une mise en contexte. Moi, je savais pas trop c'était quoi un mockumentary, puis c'est pour ça que je suis contente qu'on utilise le terme documentaire, parce que pour moi, un documentaire, c'est très clair ce que c'est. Puis après ça, ben, je vais aller chercher des documentaires qui sont horreurs. Mm-hmm. Mais mockumentary, je trouvais ça flou, alors je suis allée poser la question sur certains trucs. Et pourquoi je tiens quand même à faire une mise en contexte, c'est que depuis... Le dernier Horror Gamer, celui de la semaine passée, j'ai écouté votre épisode avec Alex Perron et vous dites exactement de faire ce que j'ai fait. J'ai été chercher une liste sur Google. Dans le dernier Horror Gamer, vous dites, si vous ne connaissez pas un sujet, faites juste taper sur Google « liste des meilleurs », puis vous allez avoir des suggestions. Bon, ben moi, j'ai tapé « liste des meilleurs mockumentaires ». Et dans les suggestions, j'avais plein de trucs, dont certains qu'on m'a dit ce n'est pas des mockumentaires. Ouais. Mais j'étais comme, ouais, mais moi, il est dans la liste. Et dans la liste, il y avait Human Centipede 3. Et oui, pour vrai, il était dans la liste. Et quand que j'en suis venue à choisir les films, ce qu'il y avait, c'est que la majorité des films, je les avais déjà vus. Mm-hmm. Ça ne me tentait pas de voir un film que j'avais déjà vu. Et là, quand j'ai posé la question sur un groupe, là, Québec Horreur, Geek Fan, je sais pas trop, là, yes. Je pose la question, c'est quoi pour vous la différence entre un mock et un fan footage? Ben beaucoup, ben pas beaucoup en fait, mais j'ai eu 6-7 personnes qui ont répondu que je connaissais pas. Et dans les 6-7 personnes, Human Centipede 3 est sorti 2 fois quand même. Moi, je répète, je n'ai pas vu le film à ce moment-là, donc je me dis, bon, je l'ai vu dans... quelques listes, je pourrais pas le dénommer, mais je me souviens de l'avoir vu dans quelques listes, puis je me le suis fait conseiller comme étant un mock. Alors, je vais mettre ça dans ma liste.
Je pense que en n'ayant pas vu Human Centipede 3, j'ai pas vu le 2 non plus, j'ai vu le premier, je pense que les gens, mais en sachant un peu de quoi le film, comment le film se déroule un peu, je pense que les gens mélangent l'aspect méta de Human Centipede 3 avec le côté mocu, ben de documentaire, tu sais, je pense. Ça n'a rien à voir qu'un documentaire ou une parodie de documentaire, je pense.
Oui, je pense aussi.
Mais c'est pour ça que je pense que, en tant que francophone, commencer le genre par doc et non finir par mentory, je pense que c'est plus clair pour des francophones. Parce que là, tu dis documentaire et non mockumentary. Donc, lexiquement parlant, le genre devient plus clair. Bref, ouais, je retourne dans ma liste.
Même si en tout cas, c'est ça, c'est en anglais, c'est un peu bizarre parce que « to mock » veut dire « imiter » aussi. Tandis que pour nous autres, « moquer » prend beaucoup plus un sens humoristique.
Oui, c'est ça. Donc, bref, moi, je décide d'écouter « Human Centipede 3 ». Et pour revenir au film, ben ça a été mon pire putain de film de la semaine. C'est détestable, c'est dégueulasse, j'ai détesté ça. Au début du film, je me suis sentie comme dans un party. C'est un party où c'est que l'ami d'un ami t'invite, fait que t'as pas vraiment grand-chose à faire, puis t'arrives d'un premier en plus, fait que t'es crissement mal à l'aise d'être là. Bon, merci, Jeff. Mais non, mais genre de party que tu dis, hey, tu sais, comme moi, je suis entrepreneur, puis on fait gros des soirées de réseautage, puis là, tu arrives dans ta soirée de réseautage, puis tu te rends compte que finalement, tu connais pas personne. Mm-hmm. Fait que tu fais juste le piquette à observer, puis tu dis, OK, what the fuck, à qui je parle, où je m'en vais. Puis là, tu t'en vas dans une direction, tu fais, OK, c'était pas la bonne, fait que là, tu vas ailleurs. Oui. Là, tu t'incrustes dans un groupe, puis là, tu te rends compte que ce groupe-là, tout le monde se connaît, fait qu'ils sont vraiment pas à l'aise que tu sois assis avec eux, fait que tu te retires. Mais c'est ça, mon visionnement de Human Centipede. La première demi-heure, j'ai même pas compris pourquoi c'était les mêmes acteurs, parce que j'avais pas compris que c'était pas les mêmes personnages. Moi, j'avais pas catché ça. Fait que j'ai vraiment détesté mon visionnement de Human Centipede 3, vraiment. Et autant que j'ai trouvé le premier original, le deuxième, je l'ai vraiment beaucoup apprécié pour sa facture visuelle, son côté très glauque, son côté très Eraserhead. Je crois que c'est vraiment filmé, c'est pas le même contexte, mais c'était filmé comme Eraserhead. Fait que j'avais vraiment apprécié. Le 3, je l'ai détesté. Et d'autant plus que je m'attendais à l'aspect mock. Tu sais, je m'étais dit, Chris, on n'arrête pas de me le conseiller. Sûrement qu'à la fin, je sais pas, il y a une caméra qui tombe, on dit couper. Tu sais, tu comprends-tu ce que je veux dire? Je me suis dit, vu qu'il est dans les listes, sûrement que d'ici à la fin, on se rend compte que c'est un plateau de tournage, puis on arrête. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
Ouais,
ouais. Ouais.
Je m'étais dit, s'il se retrouve sur des listes, non pas des suggestions, mais vraiment des listes de gens qui me proposent sur Internet, on me propose ce film-là comme étant un mock. Chris, d'ici la fin, il y a bien quelqu'un qui va faire, OK, on arrête, puis là, on va se mettre à jaser de ce qui se passe. Puis c'est là que le côté mock embarque. Mais il n'y a jamais de côté mock qui embarque. Fait que je me suis tapé un putain de mauvais film pour rien. Vraiment, c'est mauvais le film. Il y a des... Le personnage principal du chef de prison, il n'est pas crédible, il est agressant, il est détestable. Non, tous les personnages sont détestables. Autant dans The Devils, j'adorais les personnages, ici, je les déteste tous. Ils sont agressants. Mettons, ce qu'on pourrait donner, c'est la facture visuelle, parce qu'il y a un gros filtre jaune, très puissant, au niveau de... Tu sais, on comme si... Mais en même temps, c'est désagréable. Parce qu'on met un gros filtre jaune comme si on est au Texas. En fait, tout, il fait chaud. Mais la seule fois où on fait mention de ça, c'est quand on filme en gros plan le cul de la fille parce qu'elle a une mini-jupe, puis on voit, tu sais, le bas de la fesse, puis la sueur, le bas de fesse. Ça l'excite le gardien, le chef de prison. Fait que, tu sais, tu mets un gros filtre jaune qui est une super bonne idée en soi, mais tu l'exploites jamais. Tu mets une espèce de tension au niveau de la chaleur, au niveau de l'ambiance, t'es sec. Moi, j'imagine un Texas sec, un Texas où il fait chaud, un Texas où c'est lourd, mais c'est juste un filtre jaune, puis jamais tu mets l'exploite qui fait chaud. Tu sais, ça pourrait être juste ça, là, une scène où, genre, la personne devient folle parce qu'elle, puis qu'elle crie, puis comme, il fait chaud!
Oui.
Jamais c'est... Fait que tu me fous ça dans une ambiance de chaleur sans jamais en parler.
J'ai sa sueur de raie dans le nez. En tout cas, regarde.
Et puis comme à Mané, il y a plein de moments comme dans le sable, comme si la prison était dans le désert. Il y a plein de moments dans ce désert-là, mais il n'y a pas de sable qui revole. Il n'y a personne qui tousse parce qu'il y a du sable. Il n'y a personne, genre, qui fait comme... Tout est poussiéreux. Il n'y a pas de problème venant de l'ambiance qu'on crée. Fait qu'elle sert à rien. Ce film-là est détestable. Détestable. Je vous le jure, là, pour quelqu'un qui a bien aimé le 1 et 2, je suis allée sur IMDb voir ceux qui avaient donné une bonne cote. Puis tout le monde qui a donné une bonne cote à ce film-là nous crie « Vous avez rien compris ». Parfait. J'accepte d'avoir rien compris. J'accepte.
Écoute, des fois, il vaut mieux vivre dans l'ignorance.
Je vis humblement le fait que je n'ai pas compris Human Centipede.
Moi, je vais faire mon meilleur coup de pas, là, mais cette journée-là, j'ai arrêté mon mockumentary. Parce que mon documentaire, j'avais décidé d'écouter de Poughkeepsie Tapes. Poughkeepsie Tapes, donc un documentaire, si je ne me trompe pas, qui est basé sur une histoire vraie d'un tueur en série aux États-Unis. Qui aurait filmé autant sa filature de ses victimes, le moment de ses captures, parce qu'il faisait de la torture, et ses moments de torture. Et il aurait trouvé 600 tapes chez eux. Puis c'est comme un documentaire où des interviews avec des profileurs, des policiers, des membres des familles des victimes, entrecoupés de cassettes vidéo. Et je me disais, ça va être mon film hard de la semaine. Ça va être ça va être le film rough. Et il y a une qualité qui est importante dans un documentaire, et c'est ses acteurs.
Mm-hmm.
Si tu veux croire un documentaire, ça te prend des acteurs qui sont béton. Je pense qu'on avait parlé de Sandman quand on avait fait notre débat un peu, puis qu'on avait parlé dans notre épisode.
Prends juste Benoît pour le voir dans le cet arrivé près de chez vous. Là.
Ouais, je voulais qu'on en parle tantôt parce que c'était ta suggestion. Mais,
tu parles d'acteur. Ben, c'est comme le sommet.
T'as pas le choix d'y croire. Tandis que là, j'ai rarement vu des policiers et des membres de famille autant dire leur texte que dans Apocalypse Tape. Ça m'a vraiment gossé. Les vidéos étaient creepy. Les vidéos, tu sais, je veux dire, la première vidéo, c'est le meurtre d'un enfant, là. Fait que, tu sais, j'ai pas trippé tant que ça à voir ça. Puis, ils font comme rajouter un filtre sur la vidéo pour imiter des vieilles VHS. Donc, une vieille VHS, jamais sur le tracking. Mais, fucking jamais, là. Jamais sur le tracking. Des fois, là, c'est des ondes qui te passent en face, mais qui finissent plus. Puis là, j'étais comme... Come on, là, tu sais, je veux dire, je reprends des vieilles VHS de films que j'ai faites au cégep, puis des affaires que j'ai enregistrées, des radios en fer que j'ai enregistrées.
Ça joue encore très bien.
Ça joue encore mieux que ça, tu sais. Faudrait les avoir réécoutées 250 fois, ces cassettes-là, pour que ça soit aussi lettre que ça. Ça m'a vraiment gossé. Ça m'a vraiment
l'effet gossé. L'effet VHS, des fois, quand c'est rajouté à quelque chose de digital, des fois, c'est comme tu dis, c'est trop exagéré. Mais je pense, mettons, c'est pas dans l'horreur, mais les épisodes des Appendices dans les 2-3 dernières saisons ont fait beaucoup de fausses VHS. Puis eux autres, ils l'avaient, là, c'était top-notch. Eux autres, c'était génial, leur VHS. Là,
mais permettez-vous de plugger un réalisateur, cher pourquoi, qui est rendu à Montréal et qui fait aussi le podcast Point de vue.
Oui.
Rémi. Là, j'ai pas son nom.
Rémi Fréchette.
Rémi Fréchette, son dernier film est tourné sous VHS, sous l'effet VHS, et c'est un bijou. J'ai pas été capable de l'écouter au complet parce qu'il l'a projeté à la capsule, puis j'étais en cuisine, fait que je sortais voir des bouts, puis je rentrais, et tout ce que j'ai vu était magnifique. Bravo Rémi, si tu nous entends. Au pire, on le tag. Son film est incroyable. Puis c'est vraiment son tout dernier film, puis il fait pas juste comme 10 minutes, là. Il fait quasiment 30-35 minutes, c'est pas 40, fait que tu sais, c'est vraiment un bijou de moyen métrage. Beaucoup d'efforts, c'est incroyable. Je vous invite à le voir. Il va faire la tournée des kinos, entre autres. Il est venu à Kino Sherbrooke, puis il va faire beaucoup de kinos Montréal. Puis, pour ceux qui nous écoutent outre-Atlantique, Rémi va beaucoup dans les festivals. Fait que si vous voyez le nom de Rémi Fréchette et son film, ça me fait chier de pas avoir le titre, mais je vais le retrouver au pire. Mais si vous voyez, c'est son dernier, là. Fait que ça va être lui qui va tourner le plus. Si vous voyez Rémi Fréchette, c'est exactement ça. Un film tourné en format VHS, et il l'a à merveille.
Prenons le temps de recommander Point de vue, c'est vraiment un podcast que j'adore aussi.
Oui. D'ailleurs, tu vois, regarde, il y a un Pascal Jacob qui dit la fin de Poughkeepsie Tapes frappe solide. Écoute, peut-être qu'un jour je me le taperai, mais ce sera pas. Je le rattraperai pas pendant les 31 jours d'horreur. malheureusement. C'est ça, Jeff, tu nous avais toute une suggérée, c'est arrivé près de chez vous. L'épisode, le podcast numéro 28, 29, je me souviens plus.
Pierre était là avec nous autres, je pense.
Ouais. Podcast qui avait été un peu lourd parce que ça restait que c'était des. On avait comme fini par parler des snuff, puis. Pierre nous racontait qu'il y avait des gens qui avaient des trucs.
Ouais, il y a ça, puis je pense que ça arrivait pas longtemps après l'affaire de Rocco Magnotta aussi, je pense.
Ouais.
Je pense qu'on a mentionné ça aussi. Là.
Fait que tu sais, il y avait. On parlait de l'importance que ce soit fake, qu'on sache que ce soit fake quand on écoute des trucs de même pour vraiment apprécier. Oui. Parce que dès qu'on sait que c'est. Il y a peut-être des chances qu'on écoute de quoi qui est vrai, ça nous enlève tout le plaisir. On n'est pas des freaks parce qu'on écoute de l'horreur.
Ça se résume. J'ai vu, c'est arrivé près de chez vous, moi, quand j'étais jeune, dans les années 90, mais peut-être pas quand ça a sorti, là, peut-être plus en 95, 96. Et Benoît Poulvord, l'acteur, il n'était pas connu à ce moment-là. C'était pas la grosse vedette que c'est maintenant. Tu ne voyais pas sur toutes les pochettes de DVD belges ou français. T'sais. Fait que je me posais la question quand j'étais jeune. Mais pourtant, tu le vois bien que c'est trop gros pour être un film. Mais en même temps, c'est sur la ligne. C'est vraiment sur la ligne, ce film-là. C'est très parodique, mais en même temps, tu te poses la question. Merde, ça a vraiment l'air vrai des fois. Puis j'aime les petits détails techniques, comme des fois, ils partent. T'sais, c'est tout fait avec les caméras, avec une perche, une caméra pellicule, tout. Il y en a un qui part avec la caméra, puis il va filmer. Plutôt, le perchiste, c'est à l'autre bout. Là, t'entends le son qui vient de l'autre bout là-bas. Mais le personnage est tout proche en premier plan, mais et de même, ils ont pensé à ça, tu sais.
Jeff, on t'a manqué un peu, mais on a compris l'essentiel de ce que tu voulais dire, pardon.
Okay. Ouais, deux secondes, on a manqué même pas deux secondes.
OK, mais en tout cas, c'est ça. Non, j'aimais le côté réaliste du film, puis j'adore la performance des acteurs de ce film-là, puis des meurtres, des fois, qui sont sauvages et soudains.
Oui.
Tu fais, oh my God, OK, c'est donc bien. Puis c'est tout fait à la caméra de même, puis c'est comme, wow, OK, c'est pas fait hors champ, c'est pas...
Une chose est sûre, c'est que tu veux pas être le gars de son sur l'équipe de tournage.
Il y a non, vraiment pas. De son.
Mais, non, puis toute l'idée que ce soit ses vrais parents, sa vraie famille qui jouait dedans, puis que même quand il est en prison dans le film, sa mère pensait qu'il était en prison pour vrai, puis il avait dit à ses parents qu'il faisait un documentaire sur lui, ses parents savaient même pas qu'il jouait dans un film ou c'est un tueur en série. Écoute, c'était solide. C'est le top. Puis tu vois, Véronique, sur le chat, elle nous suggère Lake Mungo. C'est ce qu'elle a écouté. Et je me souviens très bien de Lake Mungo. Ça m'avait beaucoup marqué. Très, très bon documentaire.
Tu dis que c'est Véronique, mais c'est Marc-Antoine qui en a parlé, je pense.
Non, Véronique l'a mentionné, puis Marc-Antoine a comme...
Les deux aussi.
Okay. Trouvé.
On va passer aux journées, la journée 5. Les amis, avec les fantômes asiatiques...
Les films de cheveux.
Les films de cheveux. Vicky.
Parce que Véronique, entre autres, c'est ça qu'elle a dit. Elle a dit, bon, mais je viens de me taper The Ring, puis je commence Grudge 2, j'ai pas fini avec les films de cheveux.
En effet.
Les films de cheveux. Mais
puis,
j'ai pas grand-chose à dire.
Les films de cheveux 2, Vicky.
Mais j'ai pas grand-chose à dire dans le sens où... Décevant parce que... Mais je peux pas être déçu, vous me l'aviez dit. C'est exactement la même histoire que le 1.
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, je... Tiède. Comme, pas mauvais, pas bon, c'est comme... Puis en plus, je l'ai pris sur Cinépop, donc tu sais, correct. J'ai vraiment rien d'autre à dire, c'est poche, hein.
Moi, j'avais dit que ma scène qui m'avait marqué, c'était la scène de la psy. Il y a une scène de la psy qui m'avait vraiment frappé. J'ai trouvé écœurante.
Ouais, mais ça, la fin, c'est que je l'écoutais avec mon chum, puis après 15 ans de vie commune, j'ai appris qu'il était vraiment momoune dans les films d'horreur. Il voulait pas que je ferme les lumières. Mais tu sais, j'étais comme, ben oui, mais voyons, là, tu sais, j'étais avec toi, là, le chien est là, t'es protégé, chérie, ça va. Puis t'es comme, oh non, là, ça me semble pas, là, si t'écoutes des films d'horreur dans le noir, moi, j'aime pas ça. Mais c'est comme la première fois en 15 ans, parce qu'on écoute rarement de films ensemble, fait que souvent, c'est au cinéma, puis c'est rare, c'est des films d'horreur. Puis c'est la première fois en 15 ans qu'il était comme, ben là, je veux pas que tu fermes les lumières, là. Fait que tu sais, j'avais pas la même ambiance, parce que j'étais avec mon chum, qui essayait de me faire croire que c'était pas vrai, fait que tout est comme, ben là, ça se peut pas. Puis, tu sais, les lumières...
J'espère, si c'est une actrice.
Je le sais, mais tu sais, on aurait dit que lui-même, il voulait se convaincre. Puis, tu sais, les lumières étaient pas toutes éteintes. Fait... Puis, vu que c'était le même film, comme au niveau de la diégèse que le premier, mais mon expérience n'était pas optimale. Et je peux pas, comme, le déconseiller, mais je peux pas le conseiller non plus parce que la diégèse, comme je dis, c'est pas mal la même. Puis, je suis sûre que les fantômes m'auraient fait plus peur si j'avais vraiment été dans... une ambiance plus le fun que l'autre à côté.
en effet, c'est un film qu'il faut... faut mettre l'ambiance dans notre bar pour donner un petit plus un au film d'horreur.
Mais quand on a parlé de Grudge 1, on a tout dit dans l'ambiance qu'on était pour écouter le film aussi. Là.
Oui, c'est important. Le Jeff nous avait même envoyé une photo de lui
dans
son
dans
sous-sol.
Le noir.
Avec
mon escalier en arrière.
Parfait. Là. C'est parfait comme setup là, pour écouter Grudge. Toi, Jeff, tu nous avais suggéré Cairo.
Oui, c'est la version japonaise de Pulse. En tout cas, je pense que c'est japonais. À cause du titre Cairo, j'ai envie de dire c'est coréen, mais ça n'a pas rapport. Je pense que c'est japonais. T'sais.
Je vais te c'est, le dire pendant que tu parles.
Ouais, ben c'est ça. Japon. OK, ben je l'ai vu il y a une douzaine d'années à peu près, fait que je peux pas vraiment en parler en détail, mais ça m'avait beaucoup marqué. Je l'ai vu deux fois, je pense, le film. Puis j'ai vu le remake américain, puis le remake m'avait vraiment pas impressionné. Mais le film original m'avait fait peur là, à l'époque. On était vraiment là-dedans, tu sais, dans les fantômes japonais, puis ça me faisait peur. C'était des films-là comme The Grudge, The Ring, puis tout ça. Puis lui, il avait quelque chose de plus, il avait quelque chose de poétique dans les images. Des fois, je me rappelle d'un fantôme qui s'en vient, il est dans un couloir, il s'en vient vers la caméra, puis il marche d'une drôle de façon, puis
oui,
ça me faisait freaker, là.
Je l'ai commencé, Cairo. Un autre que je me suis endormi dessus, que j'ai pas pu terminer parce qu'il est très long, il dure 2 heures. Ouais, elle fait une genre de danse en avançant, tu sais. D'habitude, c'est mais comme des trucs saccadés, là.
Ouais.
Mais elle a fait des mouvements bizarres.
C'est beau, en même temps que c'était épeurant.
Ouais, c'était vraiment bizarre.
Et tout l'aspect, c'est des gens qui rentrent dans le mur ou qui sortent des murs, en tout cas, qui sont morts. Puis il y a le visage aussi dans l'écran d'ordinateur, à un moment donné, pendant des années, j'ai eu peur, en fermant mon écran d'ordinateur, je m'assurais que ça allait bien fermé parce que j'avais peur de voir deux yeux apparaître, puis que tout à coup, je serais marqué par ça, tu sais. Ça m'a vraiment... Puis pourtant, j'étais au milieu de la vingtaine, là, j'étais plus un flow, là, j'étais plus... Mais j'étais vraiment marqué par ça, puis...
Il y a des images qui nous marquent dans la vie des fois, puis il n'y a rien à expliquer.
Ouais. Non, c'est ça, mais non, je le recommande encore, pourtant je ne l'ai pas revu, mais je pense que ça vaut vraiment la peine. Mais si vous me permettez, je vais juste... Super. Puis, je vais juste mentionner quelque chose que je pense que c'est Marc-Antoine qui l'a partagé sur Facebook cette semaine. C'est un texte publié sur le site Bitch Media. Ça a été publié le 3 octobre, ça s'appelle « The Feminist Power of Female Ghosts ». Puis ça parle justement des fantômes japonais, puis de tous les fantômes féminins du cinéma des dernières années, puis de comment souvent c'est des victimes, dans leur vivant, c'est des victimes de la société, de l'image à laquelle elles sont confinées, des femmes dociles et tout ça, puis tout ça. Puis c'est dans la mort qu'elles se vengent, qu'elles deviennent fortes et tout ça.
Qu'elles prennent leur pouvoir, oui.
C'est prenant pouvoir, c'est ça. C'était un texte vraiment intéressant que je voulais mentionner. Si vous lisez l'anglais, je pense que ça vaut vraiment la peine. C'est sur Bitch Media, sorti le 3 octobre dernier.
Marc-Antoine, sur le chat, dit « Cairo a un côté lynchéen, donc de David Lynch, qu'on ne retrouve pas dans les autres films de petites filles fantômes de cette période-là. » En effet, il n'y a rien... tu commences le film, tu sens déjà que tu n'as pas affaire à un The Grudge, un Ring ou des trucs comme ça. Il
n'y
a pas de différent là-dedans.
C'est pour ça que ça me plaît.
Mais tu l'as-tu vu, Seb, Paul?
Non, je dois le rattraper. Là. J'ai écouté les 45 premières minutes, je me suis endormi.
Ben, mais c'est ça, j'allais dire, Moutou, maintenant, je me suis endormi puis j'ai eu de la misère à me remettre dedans. Fait que je comprends pas votre kick. Parce que quand tu l'as publié que c'était ton film, j'étais comme, OK. Puis là, j'ai vraiment hâte de le voir. Je suis comme, ouh, il va être déçu. Puis là, j'entends que, tu sais, GF Trip. Puis toi, tu dis, c'est comme, faut que je le continue. Je suis comme, ben, moi, je me suis endormi. Puis quand j'ai essayé de le repartir, je n'étais pas dedans, pas en tout. Là.
Ben, moi, tu vois, cette semaine, petite parenthèse, c'est que j'ai arrêté les boissons énergisantes et tout ce qui est boissons gazeuses et tout ça. Mais ça fait 3 semaines que j'ai arrêté. Fait que je suis comme vraiment sevré. Et le soir, j'ai vraiment de la misère à rester réveillé. On dirait que si mon corps a comme fait, ouais, d'habitude, tu me donnais beaucoup de sucre. Puis là, j'en ai plus. Je shut down. Fait que. Les 31 jours d'horreur, ma difficulté, ça va être ça. Ça va être de rester réveillé. Ça va être le plus dur.
Puis c'est niaiseux, là. C'est niaiseux, mais c'est aussi parce que c'est l'automne, puis il y a moins de lumière aussi.
Beaucoup moins de lumière. On tombe dans le noir plus rapidement. Donc, oui.
On est beaucoup plus réveillé au printemps puis à l'été. On est beaucoup plus réveillé, naturellement, là.
Ouais. Donc, c'est ça. Ça a été ma difficulté avec Cairo. Donc, ce n'était pas un. Écoute, je me suis endormi en jouant au PlayStation après-midi, fait que hier, ça n'a rien à voir.
J'ai vu la photo.
On a vu la photo.
Fait que ça n'a rien à voir avec la qualité du film. C'est ça. Donc,
reviens-moi d'abord, parce que moi, pour vrai, je m'étais endormi puis j'avais pas été capable de rembarquer. Fuck all.
Mais gars, c'est peut-être comme moi et Thirst, là. J'ai pas aimé Thirst, vous l'avez tout aimé, je pense.
Ouais, mais c'est ça.
Je t'ai endormi dessus.
Mais reviens-moi, peut-être que je me réessayerais sans m'endormir, puis tu sais que d'un coup, ça va mieux.
D'accord. Jour 6, les zombies. Zombies, les amis. Vicky, tu
encore
nous
avais... là,
okay,
vas-y.
Non,
ben, j'allais dire encore là, j'ai recommandé, comme j'ai dit tantôt, mon film que j'avais mis tantôt, Return of the Living Dead, parce que je trouve ça le fun. Je trouve ça vraiment très le fun.
Oui, c'est juste pour ça. Dead. Ah oui, bon, oui, vraiment.
Mais tous les films, c'est à la liste, je les ai tous vus, puis sont tous le fun, sauf Life After Death que j'ai pas vu, mais Steven m'en a parlé 3 millions de fois, puis il paraît que c'est super bon.
On avait Return of the Living Dead, 28 Days Later, Life After Death, qui est quand même très très cool, Night of the Living Dead de 1990, que t'as vu, Tom
Selleck. Oui! Yes! Yay! Woohoo!
Puis Death Snow 2.
Qui a recommandé 28 Days Later?
C'est moi qui l'avais recommandé, parce que quand on a fait la liste, je savais pas encore qu'est-ce que j'allais écouter.
Je t'adore, mais ça tu le savais déjà. C'est parce que je déteste le putain de débat inutile sur les 28 Days Later. Ce n'est pas des films de zombies parce que c'est des infectés. Who fucking cares? Who fucking cares? Dead Snow, c'est pas pas des zombies parce qu'on mord le sentin. Non, on s'en fout! On s'en fout, ça s'appelle un feeling! C'est un film de feeling!
Exactement.
Le film Total Eclipse, là, c'est pas un film de loup-garou, c'est un film de Mario Van Peebles. Mais il y a quand même des loups-garous au travers. C'est un film de feeling. Ah, man, je savais pas que t'avais mis ça, mais je t'aime tellement parce que je suis tannée de me battre avec l'idée que c'est pas parce que c'est un zombie dans le plus clair du terme que ça en est pas un. Hey, on s'en fout, là.
Ça a une inspiration, ça s'inspire du genre avec ses codes et tout ça, l'infection, t'sais, le drame humain plutôt qu'autre chose. 28 Days Later, c'est un film de zombies, c'est juste que le monde sont mortels. T'sais, ils peuvent mourir de façon normale. T'sais, si tu arraches un bras, ils vont mourir au bout de son sang.
C'est tout. Mais ça, on s'en fout. C'est le même effet. T'sais, ils courent après, puis tu comprends pas pourquoi.
C'est ça. Mais toi, t'as enfin vu celui de Tom Savini?
Exactement, parce que moi, c'était sur ma shameless. Puis on en avait parlé durant l'épisode sur Romero, puis je voulais pas l'écouter parce que je voulais pas me mêler dans les images. J'avais dit ça assez clairement dans le sens où si j'écoute ce film-là, on dirait que dans ma tête, il va s'incruster comme un film de Romero, puis je veux pas. Fait que je vais attendre le moment opportun, puis je trouvais que c'était le moment opportun, tout simplement.
Bon, et comment ton appréciation?
Ah, j'ai adoré.
Ouais.
J'ai vraiment adoré.
Barbara est vraiment plus le fun là-dedans.
Barbara est plus le fun, mais en même temps, tu sais, Barbara devient un condensé de tous les personnages féminins de Romero parce que plus il avance dans sa filmographie, plus ses femmes sont badass.
Ouais.
Mais non, j'ai vraiment, vraiment adoré, pour vrai. Les zombies sont plus le fun, les personnages.
Les maquillages sont beaux.
Ouais. Mais tu sais, c'est comme. Au tout début du film, est comme « Ah yes, enfin quelqu'un! » Puis là, plus il s'approche, plus tu te rends compte que le tuxedo ouvert en arrière, puis finalement, c'est un mort lui aussi,
ouais.
Tu sais. Puis ça, je trouvais que ça a teinté beaucoup le film de surprise. Non, j'ai vraiment, vraiment aimé. Pour vrai, là, j'ai adoré.
Cool. Je savais pas quoi écouter ce soir-là. Et j'ai pris une chance, les amis. J'avais demandé à Steven, je veux voir The Autopsy of Jane Doe pendant mes 31 jours, je le mets sur quelle thématique? Puis il m'a dit, je te le dis pas, ça va te voler le punch. Ok, ben c'est tant mieux, tu sais. Parce que bon, après avoir vu le film, oui, effectivement, s'il m'avait dit quelle thématique, il m'aurait volé le punch. Ça aurait été très, très dommage. Fait que je me suis dit...
Fait qu'au hasard, crocodile.
Fait que je me suis dit...
Oh, Liz, t'as raté ta chance.
Je me suis dit, bon, soirée de zombies, film d'autopsie qui vire mal. Oh, ça se passe d'une morgue, il va y avoir des zombies. J'ai écouté The Autopsy of Jane Doe. Ce n'est pas un film de zombies. Et je vous dirai pas c'est un film de quoi. Tout ce que je vous dirai, c'est écouter de putain d'autopsie de Jane Doe. C'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est vraiment, vraiment solide. C'est vraiment bon. Ça m'a mis sur le bout de mon siège. C'est le premier film cette semaine qui m'a vraiment fait peur. Là, parce que je me suis dit, oh shit, là, j'ai la chienne. Là. Puis, c'est le genre de film où plus ça avance, tu fais la marde va pogner. Je sais pas c'est quoi la marde. Je sais pas qu'est-ce qu'elle va pogner, mais la marde va pogner quelque chose. et effectivement, la marde pogne. Vraiment trippant. Vraiment trippant. Du beau divertissement. De rafraîchissant. D'inventif. Il y a de quoi dans ce cadavre-là qui est allongé là, qui bouge pas, de menaçant. Ils ont réussi à faire ça avec les plans de caméra, avec l'éclairage, la façon dont son visage est immobile, mais que, tu sais, des fois, ils vont manipuler sa tête, puis de la manière qu'ils vont replacer sa tête, tu sais, pour qu'elle redevienne immobile, on dirait que son visage a changé d'expression. Fait que là, t'es comme, elle fait pas la même face que tantôt. C'est vraiment, vraiment trippant. Puis tout le long, tu sais, eux autres se questionnent en faisant l'autopsie de quoi que la fille est morte, puis tout ça. Puis toi aussi, t'es comme, what the fuck? Où c'est que ça s'en va? Qu'est-ce qu'on va découvrir? Vraiment, vraiment, vraiment trippant. J'ai vraiment aimé ça. Mais je vous en dis pas plus, je vous dis juste d'aller l'écouter.
Peux-tu en se mentionner quelque chose? Marc-Antoine, tantôt, me disait que lui, il a écouté Dead Set, puis je voulais juste en profiter pour en parler, parce que j'en parle tout le temps sur ses réseaux sociaux depuis qu'il est sorti sur Netflix, mais Dead Set, si vous aimez Black Mirror, Charlie Brooker, qui est l'auteur et le créateur de Black Mirror, a écrit, en 2008, Dead Set, qui est une mini-série, si on veut, c'est en 5 ou 6 épisodes. C'est des épisodes d'une demi-heure max, puis ça fait un film de 2 heures, mettons. Si l'écoute bout à bout, ça fait un film de 2 heures et quelques, là. Puis c'est un film de zombies. Ça se passe sur le plateau de tournage d'une émission, l'émission Big Brother en Angleterre. Big Brother, qui est un genre de love story ou d'occupation double, tu sais. Puis les gens sont prisonniers du studio. T'as ceux qui travaillaient pour la station de télé qui sont un petit peu en dehors du studio. T'as différents personnages qui sont un petit peu éparpillés partout, mais c'est surtout concentré sur la gang dans le studio, la gang de vraiment de morons qui sont participants à la télé-réalité puis qui sont tous imbus d'eux-mêmes, là. Puis autour d'eux, ben, y a des zombies qui ont envahi le monde entier. Puis c'est le bordel. Puis c'est frénétique, c'est violent, c'est vraiment très, très gore. Puis c'est à la fois, en même temps, vraiment très, très drôle. Il y a un commentaire social, il y a des références culturelles à fond. Je pense que Netflix a sorti parce que Black Mirror est vraiment très populaire, fait qu'ils ont dit, bon, Charlie Brooker, puis tout, puis c'est l'Halloween, mais ça sort 10 ans trop tard, je trouve, parce que c'est sorti en 2008, ben, 9 ans trop tard, mais ça vaut vraiment la peine d'être vu. Je trouve que c'est encore très, très fort, là. Je ne l'ai pas revu récemment. Je l'ai vu il y a peut-être 2-3 ans. Je l'ai montré à ma blonde quand on a commencé les premières saisons de Black Mirror. Mais ça vaut vraiment la peine d'être vu, je trouve. Dead set.
Oui, j'ai vu la bande-annonce quand justement Marc-Antoine a annoncé que c'est ça qu'il allait écouter. Et sérieux, waouh, ça a vraiment l'air trippant. donc, c'est sûr que je vais l'écouter après les 31 jours. Tu nous dis que c'est sur Netflix.
Mm-hmm.
Regarde, il n'y a aucune excuse pour ne pas l'écouter. Et là, bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui avaient hâte qu'on parle du Grindhouse. Parce que sur la liste, il y avait un de ces films de Grindhouse qui est mythique. Et il y en avait qui avaient hâte de m'entendre en parler.
J'avais mis... de Death Race
2000, c'est ça. J'ai mis Ilsa, She-Wolf of the SS. Je me suis dit... Écoute, depuis que je suis jeune, qu'on se promène dans un club vidéo, puis mon père, il fait comme « Oh, oh, Elsa, la Louvre des SS! Hey! » Puis là, je suis comme « C'est quoi, tu sais? » Puis là, il me fait « Ah, c'est un film porno violent, tu sais. » Puis là, je suis comme « Ok. » Mais, tu sais, ça te reste dans ton imaginaire. Puis plus tu vieillis, plus tu fais comme « Ok, il y a vraiment quelque chose autour de ce film-là. » Puis tu te dis « Faudrait que je trouve une excuse pour l'écouter. » Mais en même temps, tu te dis « Veux-tu vraiment écouter Elsa, la Louvre des SS? » Surtout quand tu regardes des images puis tout ça, tu fais comme « Oh boy, que ça va être... » C'est ça, ça va être du Grindhouse cheesy, tu sais. Et là, je commence Ilsa, la Louvre des SS. Je vais l'avouer, je l'ai pogné sur YouTube pour l'écouter parce que je me suis dit « Je paye pas pour ça, je sais pas en tout. » Grindhouse, c'est pas mon type de film, mais ce n'est vraiment pas mon type de film. Fait que là j'y allais reculons hier. Et j'ai toffé 20 minutes. T'as fait 20 minutes, sérieusement.
T'as-tu au moins vu une paire de boules?
J'en ai vu, écoute. Tu startes le film pendant le générique du début, t'as les boules à Ilsa. Fait que t'es correct. Puis après ça, après 10 minutes, t'as genre toutes les nouvelles filles qui arrivent au camp de concentration, faut toutes qui passent flambant à nu devant Ilsa.
Pour fait qu'après 20 minutes, ça te fait plus rien. Là. T'as envoyé plein, mais ça te fait plus rien.
T'es saturé, là, tu sais. Puis... après 20 minutes, j'étais comme, non, OK, ce film-là, c'est vraiment de l'exploitation comme je la déteste, là. Donc, j'arrête ça là. Je l'écoutais, puis ma blonde, elle lisait en arrière de moi, tu sais. Puis je poussais des soupirs de « Oh, Seigneur! » Puis je poussais des soupirs.
C'est juste l'idée de ta blonde, tu sais, dans sa chaise, elle fait de l'intellectuel, elle lit.
Puis moi, j'étais en train d'écouter un samedi soir, tu sais.
C'est ça!
Puis moi, j'écoutais ça à la Louvre des SS. Puis là, un moment donné, ma blonde a fait « Mais Sébastien, elle en revient avec la discussion qu'on a eue au dernier épisode. La vie est ben trop courte pour que tu te fasses chier pendant une heure et demie.
» Merci!
Fait que là... Non, on a Yannick Vachon et Marc-Antoine qui ont écouté les suites. Ils ont écouté les 4 films, eux autres.
Oh, God!
Mais pourquoi? Mais pourquoi?
Apparemment que le troisième est tourné à Longueuil.
Ben oui, j'ai lu ça, mais on s'en contre-calisse. Ça me donne pas une raison. Hey, c'est tout un argument pour écouter un film. Si tu commences à écouter les films qui sont tournés à Longueuil, mon homme, là, Kino Longueuil doit être long en Instagram.
Mais non, sérieusement, j'ai pas été capable. Fait que là, j'ai dit, je vais me prendre du Grindhouse que j'aime. J'ai pris le Grindhouse qui a inspiré l'image qu'on a sur notre page. Et je suis allé chercher un film que j'avais déjà vu, que je voulais revoir, puis que je me suis dit, regarde, J'ai besoin d'un grindhouse facile, bonbon, que je sais que je vais aimer. J'étais retourné chercher Hobo with a Shotgun. Et j'ai encore eu beaucoup de plaisir.
Et que qui tire ses origines du grindhouse de Rodriguez et Tarantino, parce que c'était une des bandes annonces, une des fausses bandes annonces.
Oui, parce que moi, je l'avais pas catché vraiment ses intentions au début, alors que j'avais bien aimé le premier Machete. Là je comprenais pas trop. Tu sais, je connaissais pas le contexte. Je vous le dis, j'écoute plus de bande-annonce, puis je regarde pas beaucoup d'informations. Fait que le film arrive, c'est comme, c'est-tu une copie? C'est-tu un hommage? C'est-tu... Je savais pas sur quel pied danser. Faudrait que je l'écoute vraiment comme en me disant, OK, ce film-là, il a été fait pour le plaisir. Ta gueule, puis écoute.
Non, exact. Ben, c'était ça, là. C'est un film qui est fait pour le plaisir. Regarde, tu vois, je me suis endormi dessus, puis j'ai fini après-midi. Parce qu'après-midi, j'aurais pu, pendant que le petit dort, j'aurais pu juste dire, je vais jouer au PlayStation au moment où je ne suis pas encore endormi. Mais non, je me suis dit, non, c'est fini, Hobo with a Shotgun. C'est trop de la bombe. Vraiment, vraiment trippant ce film-là. S'il vous plaît, si vous n'avez pas écouté ça, amusez-vous. C'est du grindhouse qui est pas difficile d'accès, je dirais. C'est du grindhouse qui est un peu comme le Tarantino puis le Rodriguez là, avec...
Mais c'est ça, Death mais quand Bruce, tu le sais que c'est pas copié, tu sais que c'est voulu, c'est un hommage, ben il est plus facile, là.
Ouais, c'est ça, parce qu'on dirait que le grindhouse pur et dur, c'est de la misère. C'est vraiment, vraiment de la misère. Donc... Non, c'est ça. Hobo with a Shotgun. Des bonnes répliques. Je cherche le nom de l'acteur, Moses. Rutger Hauer, merci.
Qui est dans Blade Runner.
Ben oui, qui est dans Blade Runner. Est vraiment trippant. Les méchants sont le fun. La petite Abby, Molly Dunsworth, qu'elle s'appelle, est attachante comme ça, pas de bon sens. Puis elle fait des kills. Elle aussi, elle torche des culs. Elle fait un kill à la fin, entre autres, qui est... Ma blonde, j'ai comme dit... J'ai posé suppos, j'ai dit, OK, elle est encore en train de lire, elle lit tout le temps. J'ai dit, lève tes yeux de ton livre, puis regarde ça. Puis elle était comme, what the fuck, elle trippait. Elle a vraiment eu du fun, elle a juste regardé quelques passes comme ça. Donc, Hobo with a Shotgun a suggéré fortement. Toi, Vicky, t'as
vu je le revois, moi.
J'ai vu Death Race 2000.
Et puis?
Il n'y a pas Stallone tout nu là-dedans?
Non, il n'est pas tout nu dans celle-là. Mais avez-vous vu mon statut de j'écoute pas un film porno? Je pense qu'il y en a qui l'ont vu sur le chat live, justement, parce que j'écoute le film, puis tu sais, c'est à quoi je m'attends. C'est pas tant bon, l'histoire est pas tant bonne, mais c'est drôle. C'est bon, correct. Là, tu sais, c'est un film, on est genre vendredi soir, puis j'attends que le monde ait fini leur activité avant de m'en aller. Fait que c'est cool. Fait que là, il y a quelqu'un qui vient me poser une question, fait que je fais pause. Puis je suis dans le film, là, je me rends pas compte. Mais quand je relève mon capot d'ordi, ça a l'air tellement d'un putain de porno bas de gamme ce que j'écoute, que je suis comme calvaire. Puis tu sais, la manière que je suis positionnée, on voit mon écran d'ordi de la vitrine. Là. Fait que c'est genre la capsule, puis la fille à la capsule, à l'entrée, à l'accueil, c'est ça qu'elle écoute. Je suis comme calvaire qu'elle n'a pas de bon sens. Mais c'est ça. Le film, ben tu sais, si vous aimez La Purge, c'est un peu le même principe que La Purge. Tu sais, c'est du monde qui sont dans des chars. On est dans un monde post-apocalyptique. On est en l'an 2000, puis il y a eu un crash en 1979. Ça a fait en sorte que, ben, le monde va pas bien. Puis pour entertainer le monde, ben, on fait un show télé où on conduit des autos, puis on doit se rendre de la côte Est à la côte Ouest ou vice-versa. Là, je m'en souviens plus, c'est pas super important. Mais,
En accumulant des points.
Ouais, c'est ça. En accumulant des points, fait que plus tu frappes de monde, plus tu accumules de points. Plus tu frappes un bébé, ça vaut plus de points qu'un homme blanc américain parce que les hommes blancs américains ne valent rien.
Donc, c'est quelqu'un qui avait joué à Carmageddon à l'époque sur PC.
Genre. Fait que le film n'est pas mauvais, mais tu sais, je veux dire, il y a des scènes, du sang, puis un peu de contexte. Quand tu regardes un peu autour du film, les gens sont comme « Oh wow, c'est un visionnaire, il voit que dans les films, on serait prêt à aller en telle réalité, puis que la société deviendrait violente. » Mais tu sais, what the fuck, la société a toujours été violente, là. Je vois pas en quoi c'est visionnaire. Tu sais, je veux dire, le gars, il a pas fait une critique sociale du futur, il a fait une critique sociale de sa société, puis il s'est rendu compte qu'elle était violente. Mais aujourd'hui, on l'a encore, tu sais, je sais pas... C'est le film, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à mes yeux. Sylvester Stallone n'a pas rapport, là. C'est juste pour faire de la promo en 2017, là, parce que pour vrai, on s'en calisse de son personnage.
Oui, c'est vrai, il me semble qu'il est souvent sur les pochettes du film, puis en évidence. Ah,
il est sur toutes les pochettes. C'est sûr que son personnage, ben, t'as comme le personnage de méchant que tout le monde veut voir gagner la course s'appelle le Dr. Frankenstein.
C'est Carradine? Puis...
Hein?
C'est Carradine, ça, qu'il joue? C'est,
ouais, ouais, je sais pas. Bref, je sais
c'est
pas.
Kill Bill? L'acteur...
Je sais pas, il y a un masque tout long, presque, fait que j'ai
c'est
pas...
L'acteur principal. C'est l'acteur de Kill Bill, celui qui fait Bill.
Je crois, c'est ce que je dis, je m'en souviens pas. J'ai pas retenu. Bref, puis Stallone sont comme 5-6 chars. Puis Stallone serait comme le principal compétiteur au méchant. Mais Stério, on s'en fout. Puis il n'y a pas de dialogue super intéressant. Son personnage, tu sais, je veux dire, il y a plein de monde qui meurt. Puis ça aurait pu être un des premiers morts. Puis ça a juste donné par hasard qu'il y avait un personnage un peu plus important. Mais c'est un coup de chance. Pour vrai, c'est vraiment un coup de chance que ce gars-là mourrait pas dans les 30 premières minutes. Fait qu'ils peuvent maintenant le mettre dans la pochette. Mais il n'y a aucun intérêt, ce personnage-là, dans le film. Fait que, tu sais, le film, c'est correct, mais sans plus, là.
Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai vu il y a un bout de temps, c'est comme une checklist. Là. OK, vu, parfait, je pense à d'autres choses, puis c'est je ne leur veux plus jamais de ma vie, tu sais.
C'est ça.
Puis je vois pas les... J'ai jamais vu le remake, puis ni les suites du remake, ça m'intéresse pas, là.
T'sais, mais y un peu moins de violence, puis c'est le genre de film qui passe en après-midi sur votre télé, que vous le voyez, puis vous faites comme... Ah, c'est cool, ça passe. Tu sais, genre, je sais pas, là, j'ai Jumanji qui me vient en tête, là. Mais tu sais, Jumanji passe, t'arrêtes, t'écoutes un bout, puis tu fais, ah, c'est cool, tu sais, j'ai revu Jumanji. Mais t'as pas vu le film au complet, puis ça te dérange pas. Ben, ouais. C'est la même chose avec lui. Il passera à télé, il sera comme, ah, c'est cool, j'ai revu Death Race, mais t'as vu 20 minutes sur le film, puis c'était correct en masse, là.
Ben, JF, pourquoi t'as regardé Anaïs sur l'écran?
C'est ça, je voyais, là.
Il se passe des choses, là, hein, c'est ça.
JF écoute son deuxième film cette semaine.
Ouais, c'est ça, son deuxième film de Full Eclipse. Donc, c'est pas ça, c'est qu'il me le fait, il me le fait endurer. À toute fois que je vois JF, je vois Full Eclipse. Ah là 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 là. Mais les amis, c'est ce qui conclut nos...
Ah ouais, déjà?
Ben oui, ben oui. Toi, Jeff, tu nous avais suggéré...
Grindhouse. Bon, ben écoute. L'expérience complète, là, tu sais, il y a un DVD, okay, ouais, là, avec l'expérience complète, là, tu sais, les deux films, puis les bandes-annonces, dont justement la fausse bande-annonce de Hobo, il me semble qu'elle est là-dedans, si je ne me trompe pas, puis Machete, oui, aussi. Ouais. C'était justement des fausses bandes-annonces de l'époque. Puis, non, c'est ça, moi, j'avais vu ça au cinéma à Montréal en 2007, puis j'avais trippé, puis les gens à la fin avaient il y avait une ovation à la fin, le monde avait applaudi, puis c'était levé, puis c'était comme, ça trippait au bout, là, après les deux films, puis...
Quel film?
Grindhouse, Planète Terreur, puis Death Proof de Tarantino, les deux films mis ensemble avec les fausses bandes-annonces, puis Hobo with a Shotgun, si je me souviens bien, c'était un concours... À moins que je me trompe de bande-annonce, mais il me semble que c'était le résultat d'un concours, parce que les autres, c'était tous des réalisateurs connus, c'était genre Eli Roth, Edgar Wright, ou du monde comme ça. Puis lui, Jason Eisner, je pense son nom, était pas connu. David Eisner.
Yannick Vachon sur le chat te dit non, au Jason, bout, c'est Canadien. Raison. C'est Canadien indépendant, c'est pas dans Grindhouse.
Je vais vérifier mes informations, mais OK. Jason Eisner. Je laisse le bénéfice du doute, là, mais j'ai comme l'impression qu'il y avait des versions que Hobo était dedans, puis peut-être des versions que Hobo n'était pas là.
C'est based on a fake trailer made for Grindhouse.
OK.
Ouais, je lis okay. Le fait. Le fact.
Ouh, Yannick.
Ah, c'était vraiment trippant comme expérience, puis non, je recommande ça fortement.
Donc, ben les amis, on va repasser une petite pause musicale, mais juste avant la pause musicale, on est live, c'est le temps du concours. Cette semaine, pour le concours, on fera pas tirer un trio de clés iTunes fournies par Metropole Film, mais bien deux. Parce que on est de même, nous autres. On vous en donne deux fois plus, c'est la deuxième semaine. Donc, dans le chat, pendant la pause musicale, je vous donne 5-10 minutes. Là. Écrivez-moi votre film préféré que vous avez écouté cette semaine pour vos 31 jours. Mettez genre un petit hashtag concours juste pour que je sache c'est quelles vos publications qui parlent de ça. Et pendant la pause, je ferai tirer tout ça. Donc, c'est trois films. On a It Follows. Excusez-moi, j'ai complètement oublié. Je vous les redirai tantôt après la pause musicale. Je fais
est-ce ça que comme c'est encore des iTunes. Non, mais c'est encore des iTunes.
C'est encore des trois codes iTunes, des mêmes films que la semaine passée. Donc, je je me souviens plus c'est qui avait gagné. C'était Jonathan, donc Jonathan ne peut pas vraiment regagner, à moins qu'il soit greedy comme ça puis qu'il veut juste les revendre. Donc, écrivez-moi, concours. Oui.
C'est un méga fan de ma personne, puis il veut me les donner. Je te l'ai déjà dit.
C'est vrai.
Tellement exceptionnel que, tu sais, c'est une roue qui tourne, ça.
C'est ça. Ben écoute, tu feras aller tes charmes pendant la pause musicale. Pour ceux qui nous écoutent en différé, on se laisse avec Echo and the Bunnymen de Killing Moon, puis on se revoit après pour la conclusion.
We'll be right back.
Et oui, c'est déjà la fin de cet épisode des 31 jours d'horreur, les amis. Mais on finit en grand parce qu'on a fait deux gagnants pendant cet épisode live. C'est Véronique Lebel et Yannick Vachon qui se méritent tous les deux des clés iTunes pour les trois films suivants. It Follows, Rob Zombie's 31, puis Black Coat's Daughter. Alors, une belle main d'applaudissements pour les trois. Bravo!
Woo!
Vous avez bien fait ça.
Bravo!
Il m'en reste encore une autre, un autre triptyque de clés de clés iTunes comme ça pour le prochain live. N'hésitez pas à vous pointer pour le prochain live. C'est toujours le fun de vous avoir. Ce live-là a été assez en feu. Merci, j'ai vraiment trippé. On se laisse en vous parlant des prochaines thématiques pour les 31 jours, pour le dimanche prochain. On a pour le jour 8, donc ce soir, après l'épisode, on va écouter un film de cannibale. Le jour 9, ce sera Les Huit Clos. Ça, j'ai très, très hâte. Jour 10, Possession. Évidemment, on a plusieurs titres très, très connus qui en ressortent. Le 11, Found Footage. Alors là, on peut se gâter parce qu'il va en avoir pour les fins et les fous. Jour 12, Les Animaux. Alors là aussi, écoute, des animaux. Là, Vicky, tu peux écouter l'animal que tu veux. On ne jugera pas.
Ben oui.
Je vais prendre le film de requin.
Mais là, on va peut-être la mélanger, Vicky, parce que le jour 13, c'est les insectes. Donc, est-ce que tu connais bien la différence entre des insectes et des animaux, Vicky?
C'est trop d'informations pour moi. C'est trop d'informations. On va prendre des films de chauve-souris.
Compte des pattes. S'il y en a plus que 4, tu devrais être des insectes. jour 14.
Ah, je fasse pause à tous les plans. OK, 1, 2, 3, 4. Ah, je peux continuer.
C'est encore correct.
1, 2, 3, 4.
Et on va finir ça samedi prochain avec Body Horror. Donc, tout ce qui est un peu la métamorphose du corps et tout ça. Et dimanche, ben, on se refait un autre live en espérant que vous soyez tous là, les amis. Sinon, est-ce qu'on a d'autres choses à remarquer? Ben, les amis, j'ai participé à un petit podcast tout à l'heure pour parler des 31 jours et je crois que l'épisode il vient d'être sorti. Fait que je vais mettre le lien sur la page Facebook. Ça s'appelle le podcast, c'est Les Injustes. Podcast qui vient tout juste de commencer. À peine. J'ai mélangé tout juste et à peine. Donc ça donnait tout peine. Ça vient tout peine de commencer. donc ils sont à leur deuxième épisode. C'est animé, entre autres, par Martin Thomas Côté, un gars de la radio du Saguenay-Lac-Saint-Jean, très, très geek, très connu. Et on sent que ça a une qualité d'animation meilleure que la mienne. Il dit pas des toupennes, lui. Lui, il dit des vrais mots qui existent. Et ça paraît. Donc, non, c'est vraiment intéressant. Un podcast geek, ils prennent plein de sujets, ils passent ça en rafale. Ça dure une heure top chrono. Le son est écœurant, les gars, c'est des passionnés. Allez écouter ça, puis j'ai fait un petit topo sur les 31 jours d'horreur, puis c'est le fun de pouvoir jaser avec du monde qui, à l'autre bout, me renvoyait la balle. T'sais, il faisait pas juste comme « qu'est-ce que le film d'horreur? » Non, tu nommes des films, puis tu sens que l'autre bord, le gars l'écoutait, c'est le fun.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre à part l'exorciste?
Moi, j'aime pas ça les blondes qui coupent et qui tombent avec le talon haut dans la forêt. Mais c'est tout le temps ça, les films d'horreur. Hein? Mais non, c'est pas tout le temps ça. C'est tout le temps.
C'est quoi le nom de ce podcast déjà?
Eux autres, ça s'appelle Les Injustes. Je vais le partager sur la page Facebook à l'instant même. Donc, vous devriez l'avoir vu si vous téléchargez.
Je cherche sur Google, je le trouve pas.
Non, ben, probablement que c'est trop récent encore pour que ça apparaisse dans les engins de recherche de Google. Je pense qu'ils ont même pas de page. Je pense qu'ils sont juste sur SoundCloud. Alors, je vous partage ça sur la page. Sinon, ben, les amis, est-ce qu'on a autre chose pour le mot de la fin?
Non, ça va. Le prochain, c'est quoi la date que ça tombe 8 plus?
Ça donne le 15. Dimanche, le 15.
Okay. 8 le 22, c'est la première de Walking Dead, puis j'ai eu beaucoup de demandes au bistrot, fait que ça se pourrait que je manque cet épisode.
Ben, écoute, on va espérer que ce sera le seul que tu manqueras.
Ouais, ça devrait.
Cool. Jeff, tu vas être toujours là pour nous soutenir. Même
oui.
Si
cool. Oui, ben, je vais essayer d'en voir, mais je promets rien. Mais j'espère que notre autre co-animateur va être là aussi. Mais sinon, allez écouter Séance de minuit, son autre podcast, c'est super intéressant. Il vient de faire un épisode sur Gerald's Game, fait que ça vaut la peine.
Gerald's Game que moi j'avais mis dans mes huit clos, donc que j'écoute demain.
Puis il parle de leurs adaptations préférées de Stephen King, fait que c'est une longue discussion vraiment intéressante si vous êtes fan de Stephen King.
Écoute, wow. Ouais, ça doit être aussi long que quand on en avait jasé, toi et moi.
Presque.
Donc, hey, sur ça, les amis, GF, bye bye.
Bye bye.
Vicky, bye bye.
Bye.
Ceux qui nous écoutent, bye bye. Et n'oubliez pas de garder ça horreur. Bye bye.